Vous êtes sur RTL.
59 minutes et c'est Jérôme Florin qui prend le relais sur RTL. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, merci à vous, à demain.
À demain.
Merci à toute l'équipe des Petits Matins. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner pour ces 2h30 d'info RTL en mode cinéma ce matin. À 2 jours de la réouverture des salles, laissez-vous tenter exceptionnel à partir de 9h avec l'un des tout premiers films post-confinement qui sort mercredi sur les écrans. Envole-moi, signé Christophe Baratti avec Gérard Lanvin et Victor Belmondo, le petit-fils de qui vous savez. Ils seront avec nous en studio à partir de 9h pour fêter ça. Le ciné après la crise, on en parlera aussi avec le directeur de la distribution de la SND, la société de distribution et de production de films du groupe M6, Christophe Courtois. À 7h20. Dans l'actualité également, bien sûr, toujours pas d'éclaircies sur le front israélo-palestinien ce matin. Que peut faire la France? On posera la question au porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Il sera au micro d'Alba Ventura à partir de 7h40 et à 8h20, nous serons avec l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada. Soyez les bienvenus sur RTL. Merci de votre fidélité. Il est 7h.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Le journal, c'est avec vous Dominique Tenza, bonjour.
Bonjour Jérôme et bonjour à tous.
Rarement le suspense aura été aussi intense, il faudra donc attendre la fin du championnat pour connaître le vainqueur de la Ligue 1.
Lille a fait match nul hier soir, victoire de Paris, les deux clubs se tiennent à un point d'écart. Dans ce journal également, la mise en examen du meurtrier de Marjorie à 14 ans, le jeune homme vient de passer sa première nuit en prison. Quand pourra-t-on enlever le masque? C'est possible aux États-Unis à condition d'être vacciné, on en est encore loin, chez nous en France, vous l'entendrez. Et puis nous continuerons de suivre les préparatifs de la réouverture J-2. Les grands magasins peaufinent leurs rayons. Reportage à suivre.
La politique avec vous, Olivier Bost.
Nous ne faisons plus assez d'enfants en France. Et François Bayrou, oui, François Bayrou, a ses idées pour que ça change.
A tout à l'heure après le journal.
RTL Matin.
Ils avaient l'occasion d'être couronnés dès hier soir champions de France de Ligue 1, mais les Lillois ont laissé passer leur chance. Alors forcément, pour l'entraîneur Christophe Galtier, il y a eu des soirées plus réjouissantes.
Je ne peux pas vous dire que je suis satisfait du match nul, mais vu le contenu de notre match, quand on n'arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre. Et on a ce dernier match, sachant que ça sera une finale.
Quand on ne gagne pas, il ne faut pas perdre. Le LOSC a fait match nul hier soir, 0-0 face à Saint-Etienne. Le club reste donc en tête, mais dangereusement rattrapé par le PSG qui ne lâche rien. Victoire 4-0 face à Reims. Lille et Paris désormais à un point d'écart. Philippe Sanfourche, il faudra donc attendre la dernière journée de championnat la semaine prochaine pour connaître le vainqueur.
Oui, 19 ans que le suspense n'avait pas été aussi haletant et l'écart si faible à l'entame de la dernière journée. Un point d'écart, un tout petit point entre Lille et Paris, comme en 2002, quand Lyon avait su coiffer sur le fil le leader lensois. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, veut se convaincre qu'un tel scénario reste possible dimanche prochain.
Bien sûr qu'on doit y croire, tout peut arriver en football. Mais pour ça, on doit d'abord faire notre travail en allant gagner à Brest, puis en espérant que Lille ne gagne pas face à Angers.
Dans cet incroyable épilogue, même Monaco, troisième, conserve une infime chance mathématique de remporter le titre en cas de défaite des deux premiers. Une bagarre au couteau en haut et en bas de tableau, puisque si Dijon et désormais Nîmes sont officiellement condamnés à la relégation, tout reste possible pour éviter la place de barragiste, aujourd'hui dévolue à Nantes. Pas moins de 4 autres clubs restent potentiellement en danger. Bordeaux, Brest et surtout Strasbourg et Lorient qui s'affronteront directement dans une sorte de finale pour la survie en Ligue 1.
Philippe Sanfourche pour RTL. Je vous donne les autres résultats de la soirée. Monaco 3e l'a emporté 2-1 face à Rennes. Nîmes, désormais relégué, nous disait Philippe, a concédé la défaite 5-2 face à Lyon. 0-0 entre Montpellier et Brest. Nantes a battu Dijon 4-0. Marseille l'a emporté sur Angers 3-2. Nice battu à domicile par Strasbourg 2-0. Et enfin victoire de Bordeaux face à Lens 3-0.
RTL, il est 7h03. L'adolescent soupçonné du meurtre de Marjorie a été mis en examen hier soir.
Âgé de 14 ans, il est accusé d'avoir poignardé mortellement la jeune fille vendredi après-midi d'un coup de couteau dans le thorax. Ça s'est passé à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Un drame qui fait suite à de violents échanges sur les réseaux sociaux. L'adolescent, incarcéré hier soir, affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de la tuer. Son avocat au micro de Nerissa Emani.
Mon client est un enfant, un adolescent de 14 ans qui n'est pas connu des services de police et de justice puisqu'il a un casier vierge. Il dit que il n'a jamais voulu et même imaginé et souhaité la mort de la victime. Alors, il n'est pas question de se plaindre, bien évidemment, ce serait indécent. Mais n'en demeure pas moins que mon client est absolument accablé par le poids des responsabilités de son geste. Ça le dépasse.
Maître Adrien Gabeau, l'avocat de l'accusé, joint pour RTL par Nerissa Emani. Lui a été mis en examen pour assassinat. Valentin Marconne, principal suspect dans l'affaire du double meurtre des Cévennes, reconnaît avoir tué son patron et l'un de ses collègues. Il n'a semblé exprimer hier face aux enquêteurs aucun regret. Et puis on reparle de l'affaire Samuel Paty, puisque l'un des principaux suspects, le prédicateur islamiste qui avait diffusé la vidéo dénonçant le cours du professeur, demande sa remise en liberté et l'annulation de sa mise en examen pour complicité, estimant qu'il n'a aucun lien avec le terroriste tchétchène. La justice examinera sa requête aujourd'hui.
Une question à présent, et vous êtes nombreux à vous la poser. Pourra-t-on, dans les semaines et le mois qui viennent, retirer notre masque et vivre à l'américaine?
Oui, les États-Unis où depuis la semaine dernière, les personnes vaccinées peuvent se balader, aller faire leurs courses sans masque, il n'est plus obligatoire. Alors que la France vient de passer ce week-end la barre des 20 millions de primo-vaccinés, vous nous le dites ce matin, Agathe Landais, il va falloir être patient.
Oui, car pour permettre la levée des masques, il faut cocher deux cases. D'abord, il faut que le virus circule peu. C'est le cas aux États-Unis avec 11 cas pour 100 000 habitants, soit 10 fois moins que chez nous. Et ensuite, il faut suffisamment de personnes vaccinées. 36 % des Américains ont reçu deux doses, contre seulement 13 % des Français. Impossible donc, pour le moment, d'envisager chez nous la fin des masques. Le Haut Conseil de Santé publique a déjà assoupli un petit peu la règle il y a trois semaines. Si vous êtes à l'intérieur en famille ou entre amis et que vous êtes tous vaccinés, vous pouvez sans risque enlever vos masques, mais uniquement si vous respectez les autres gestes barrières, pas plus de 6, distanciation physique et aération de la pièce. Mais pour tout le monde, même les non vaccinés, il va falloir attendre encore. Olivier Véran a timidement évoqué la levée des masques en extérieur pour cet été, mais seulement si le virus circule peu et si la majorité des adultes est vaccinée.
Les précisions d'Agathe Landais pour RTL.
Il est 7h06 sur RTL. Raser les arbres pour permettre l'arrivée de la fibre optique. Cruel dilemme pour ces Vendéens, on en parle dans un instant.
RTL Matin.
RTL 7h08, la suite du journal de Dominique Tenza et direction la Vendée à présent, où l'arrivée de la fibre optique ne fait pas que des heureux.
S'il s'agit pour les défenseurs de cette technologie de permettre l'accès à Internet de manière beaucoup plus rapide, son installation implique de raser une partie de la végétation. Les lignes ne doivent pas être en contact avec les arbres et le résultat pour l'environnement et pour l'esthétique est parfois très discutable. Reportage à Cugan en Vendée, donc Nicolas Bobby.
Arboricultrice, Audrey a reçu un joli petit dessin explicatif coloré. Les arbres et les végétaux étaient coupés à un mètre au-dessous des fils téléphoniques transportant la fibre optique. Elle a refusé de sacrifier ça.
Le courrier exigeait que ce soit fait rapidement. On a commencé à voir des particuliers couper les arbres, donc chacun avec sa tronçonneuse à main. Les gens ont fait comme ils ont pu. Tout autour de chez nous, les arbres ont été coupés à hauteur de taille, en fait, parce que les personnes n'ont pas d'équipement, ne sont pas habilitées. Quand on voit des grands chênes sur le bord de route ou même un frêne qui est coupé à hauteur de taille, on sait bien qu'il ne va pas repousser.
Riverain, ancien agriculteur, Rémi a assisté impuissant à ce véritable massacre à la tronçonneuse.
Ça me fait mal au cœur, ouais. On ne peut pas parler de gestion de l'arbre, mais de saccage tout court. Ben, on voit surtout des gens qui n'y connaissent rien du tout, qui ne comprennent pas comment fonctionne un arbre en tant qu'être vivant. Il suffit juste de l'apprendre à le connaître, d'apprendre où couper, quand couper. Ça me crève le cœur, ouais, de voir ça.
Les tronçonneurs de haies auraient pu se blesser. Pour économiser le prix de la coupe, ils n'ont pas fait appel à des élagueurs professionnels.
Nicolas, c'est dommage. Bobby pour RTL. De nouvelles frappes israéliennes la nuit dernière sur la bande de Gaza. Hier, les bombardements ont tué 42 Palestiniens, dont de nombreux enfants. Journée la plus sanglante depuis le début de cette escalade de violence. Le secrétaire général de l'ONU parle d'un carnage, une effusion de sang et de terreur qui doit cesser immédiatement. C'est aussi le constat des ONG, Christophe Decroix, dépassé par l'ampleur des combats.
Oui, selon la Croix-Rouge, ce conflit est d'une intensité jamais vue. En une semaine, le Hamas aurait lancé plus de 3000 roquettes vers Israël. De son côté, l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza. Mais il y a une disproportion de moyens entre les protagonistes. Les Israéliens disposent d'une armée moderne avec des avions et des tanks, quand le Hamas voit la majeure partie de ses roquettes tomber dans des terrains vagues ou être interceptées par le bouclier antimissile israélien. Disproportion qui se confirme dans le nombre de victimes. Une dizaine de morts côté israélien, près de 200 côté palestinien, dont de très nombreux enfants. Des familles ont été décimées ou ont dû fuir parce que, selon Israël, leur immeuble abritait des membres du Hamas. À ces inquiétudes s'ajoute le fait que Tsahal vise des bâtiments abritant des journalistes. Le Comité pour la protection des journalistes accuse l'armée israélienne de vouloir perturber le travail des médias qui rendent compte de la souffrance humaine à Gaza. Alors la communauté internationale reconnaît le droit à Israël de se défendre, mais sa violence l'isole de plus en plus. La procureure de la Cour pénale internationale s'inquiète même de possibles crimes de guerre.
Christophe Decroix pour RTL.
On finit avec les courses, Dominique, elles ont lieu aujourd'hui à Vichy.
Et les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 5, le 13, le 7, le 4, le 15 et le 12. La dernière minute, c'est le 5, Ekmuljak.
Merci beaucoup, Dominique Tenza.
7h11, bonjour Olivier Bost.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
L'avenir démographique de la France n'est plus assuré, c'est le constat que fait François Bayrou, le haut commissaire au plan. Et d'après lui, Olivier, c'est tout notre modèle qui est menacé.
Oui, la question de la natalité est un objet politique un peu à part. Il est très marqué politiquement, il touche à l'intime, au parcours de vie, à la religion, à l'immigration et à une certaine fierté nationale. Autant dire que c'est le meilleur moyen pour déchaîner des passions qui n'ont pas besoin de ça.
Et comment donc s'en sort François Bayrou ?
Alors pour dépassionner le débat, d'abord, il part d'un constat très simple. La natalité est indispensable pour tout notre système social. Moins vous avez de naissances, moins vous aurez à l'avenir de gens qui travaillent et moins vous pourrez payer les retraites, puisqu'en France, les prestations sociales sont financées par ceux qui travaillent. Donc, avec une baisse de la natalité constante depuis maintenant une dizaine d'années, moins de 2 enfants par française, c'est notre modèle qui est en péril.
Et comment François Bayrou explique-t-il cela ?
Alors, sa première explication est pour le coup très politique. C'est la faute à la baisse des prestations familiales décidées lors du précédent quinquennat. Pour faire des économies dans le budget de l'État et qui n'ont pas été retouchées depuis. Cela dit, François Bayrou reconnaît qu'il ne s'agit pas de la seule raison. L'instabilité personnelle et professionnelle font que le premier enfant est de plus en plus tardif, après l'âge de 30 ans en moyenne. Et plus il est tardif, eh bien moins vous avez d'enfants. Les réponses des gouvernements successifs ont été insuffisantes, même avec l'extension du congé parental, même avec les promesses de places en crèche, pas toujours tenues d'ailleurs. Le cumul vie de famille, vie professionnelle reste un défi. À cela, il faut aussi ajouter un contexte de crise aux conséquences encore incertaines. Moins vous avez confiance en l'avenir, moins vous faites d'enfants.
Alors pardon, mais tout cela est bel et bon, mais quel est le but de tous ces constats de François Bayrou ?
De dire qu'il faut une politique familiale ambitieuse et lisible, et qu'il faudra aussi accueillir des personnes d'autres pays, accepter une immigration dans des proportions raisonnables et acceptables. Voilà de quoi se distinguer de la tendance actuelle et bien sûr de faire débat. Et pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National, elle s'est déjà bien évidemment positionnée sur le sujet de l'immigration, mais elle a aussi proposé il y a quelques semaines sur RTL 100 000 euros à tous les jeunes couples, un prêt dont les échéances seraient repoussées à chaque enfant et complètement annulées au troisième enfant, tout ça pour booster la natalité. Elle n'a pas chiffré son idée, des centaines de milliards assurément, mais la crédibilité du programme économique de Marine Le Pen, c'est un autre sujet.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, je vous le rappelle, c'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui sera l'invité d'Alba Ventura. Il est 7h14, dans un instant le retour dans les salles obscures, c'est pour mercredi et dans des conditions forcément un peu particulières. On vous détaille ça avec la brigade et notre invité dans un instant. Bon réveil sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Il est 7h16 sur RTL. Nos lieux culturels vont rouvrir leurs portes à partir de mercredi. Ce sera notamment le cas des salles de cinéma. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Première question avec vous, avec la brigade, à l'avant-veille du grand jour. Dans quelles conditions pourrons-nous retourner voir des films ?
Alors, la jauge est fixée à 35% pour commencer, ce qui veut dire que vous pouvez venir seul, à 2, à 3, jusqu'à 6. Mais vous devrez laisser 2 sièges libres avant la personne ou le groupe d'à côté. Le 9 juin, cette jauge passera à 65% avant de disparaître le 30 juin.
Avec, on imagine, des règles sanitaires toujours très strictes.
Oui, achat de tickets recommandés à l'avance, une entrée et une sortie différentes dans les cinémas, masque obligatoire évidemment, y compris pendant la séance, gel hydroalcoolique à disposition partout, et puis attention, impossibilité d'acheter confiserie, pop-corn et autres boissons, donc vous pouvez boire ou manger avant d'entrer dans la salle, mais c'est fini une fois que vous êtes dans le cinéma.
Alors, passons maintenant au programme, Stéphane. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir mercredi ?
Alors là, il y a le choix. Une trentaine de films seront disponibles. La moitié environ ressort sur les écrans, ce qui n'était resté que quelques jours à l'affiche avant le deuxième confinement d'octobre, comme Adieu les cons d'Albert Dupontel, ADN de Maïwenn, 30 jours max de Tarek Boudali, Polly de Nicolas Vanier, Drunk avec Mads Mikkelsen, mais aussi Petit Vampire ou Garçon Chiffon. Et puis il y a les nouveautés, avec un programme alléchants comme Mandibule de Quentin Dupieux, L'étreinte avec Emmanuel Béart, Falling, le premier film de Viggo Mortensen ou la grosse sortie française du jour, Envole-moi de Christophe Baratier avec Gérard Lanvin et Victor Belmondo.
Et notez que les trois d'ailleurs seront nos invités exceptionnels tout à l'heure à partir de 9h dans Laissez-vous tenter. Dernière chose Stéphane, le couvre-feu passe mercredi à 21h hein, au lieu de 19h. Est-ce que ça rend possible la séance ciné du soir?
Alors oui et non. Oui, pour les films qui commencent autour de 19h et qui font moins de 120 minutes, si vous habitez en plus à proximité de la salle. Non, évidemment, pour les productions plus longues et les spectateurs qui ont du trajet pour rentrer chez eux. Pas de dérogation possible à ce stade. Le ticket ne peut servir de justificatif de déplacement. Notez que les cinémas essaieront, là où c'est possible, de démarrer des projections plus tôt le matin. Mmh. Enfin, pour fêter la réouverture, renseignez-vous, certains réseaux de salles vont proposer des tarifs spéciaux.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock, Brigade RTL. Et bonjour Christophe Courtois.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la distribution de la SND, société de distribution et de production de films du groupe M6. Réouverture, enfin, après 201 jours de fermeture. Il y a autour de 400 films hein, qui sont en attente. Il y aura forcément embouteillage ?
Alors, non, en fait, il y a une petite confusion entre le stock et le flux. C'est-à-dire, il y a effectivement 400 films. Mais si vous regardez ce qui s'est passé, par exemple, en 2019, aujourd'hui, on est le 17 mai, et entre le 17 mai et la fin de l'année, il y a 454 films qui sont sortis. Si on regarde en 2018, entre le 17 mai et la fin de l'année, il y a 441 films qui sont sortis. Donc, le fait d'avoir un stock de 400 films à sortir dans les mois à venir, c'est pas du tout un problème, c'est en fait assez habituel. Alors, on pourrait se dire, il y a un stock, est-ce que tout le monde va les sortir très vite au début? Et en fait, on voit que dans les 18 prochaines semaines qui arrivent, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'été, il y a à peu près 13 sorties par semaine. Et 13 sorties par semaine...
Au lieu habituellement de 10,
c'est pas à peu près. En fait, non. Habituellement, c'est plutôt autour de 14. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, en 2019, il y a eu 14 sorties par semaine. Donc en fait, les sorties, elles ne sont pas tout à fait régulières dans l'année. Habituellement, c'est plutôt 11 sorties par semaine l'été, et c'est plutôt entre 14 et 18 sorties, notamment dans des périodes fortes comme février ou la Toussaint. Ça veut dire en fait que cette année, on va avoir un été plus riche, un petit peu plus riche que d'habitude, et donc en fait, c'est parce que la plupart des distributeurs se sont dit faisons revenir massivement les gens au cinéma en leur offrant plus de gros films.
Qui décide de la sortie, des dates de sortie des films?
Alors, ce sont les distributeurs qui décident des dates de sortie, donc voilà. Le principe étant qu'on se communique entre nous un calendrier professionnel qui nous permet de savoir quels sont les films qui sortiront chaque mercredi. Et donc chaque distributeur essaye évidemment de faire en sorte de trouver le mercredi qui convienne le mieux et qui lui permette, lui, de séduire le public qui va essayer de chercher. C'est pas très problématique d'avoir plusieurs films le même jour parce qu'on a la chance en France d'avoir énormément de diversité et donc il peut y avoir un film d'animation qui va séduire des familles en face d'un film qui est un film d'auteur, par exemple, ou d'une grosse comédie populaire, sans pour autant que ces films se phagocytent.
Donc c'est plutôt une chance et il n'y aura pas un problème de visibilité pour certains films.
Il n'y aura pas de problème de visibilité, c'est-à-dire qu'on est habitué à gérer une offre très importante. Il n'y aura pas de problème de visibilité pour plusieurs raisons. D'abord parce que depuis quelques années, le cinéma est devenu digital et donc c'est vrai que dans le temps, on avait par exemple un cinéma qui avait 4 salles, il pouvait projeter 4 films. Mmh. Aujourd'hui, un cinéma qui a 4 salles, il va projeter dans la même semaine entre 16 et 18 films. De la même façon, on a dans notre pays les circuits de salles les plus vertueux, les exploitants de salles les plus vertueux, qui fait que même quand un très gros film sort, un Marvel par exemple, ou un Fast and Furious, il va être dans un cinéma de 20 salles, il va être que dans 3 salles. Alors que si vous avez dans un autre pays européen ou aux États-Unis, le même Marvel va être dans 10 ou 12 oui. salles du multiplex.
D'accord, mais les cinémas, ils vont vouloir rentrer de l'argent. En plus, il y a une jauge là fixée à 35%, donc on imagine qu'ils vont mettre le paquet sur des films à fort potentiel commercial.
En fait, les cinémas, ils ont bien compris qu'il fallait attirer beaucoup de monde. Mmh. Ça, c'est très important pour eux, parce qu'on a vu l'année dernière qu'en ne proposant pas assez de films forts qui attirent du public en salle, l'été n'avait cumulé que 15 millions d'entrées, alors que l'été 2019 était un été qui avait cumulé 46 millions d'entrées. Ça veut dire qu'il a manqué, en termes de recettes pour l'économie du cinéma, il a manqué plus de 200 millions d'euros. Mmh. Donc cette fois-ci, les professionnels ont bien compris ce qui était important, c'est de proposer beaucoup de films. Et donc, évidemment que les salles de cinéma sont ravies de probablement on va avoir cette année probablement un des plus beaux étés de cinéma avec la richesse de la diversité plus importante. Pourquoi c'est important? Et c'est parce que évidemment que ça fait redémarrer la filière, mais aussi parce qu'on a un système de solidarité au cinéma qui est très important, qui fait que quand les gens vont voir des gros films, ils ne le savent pas, mais ils financent aussi de la diversité.
Donc, on vous sent très optimiste. Combien d'entrées vous visez là ?
Aujourd'hui, c'est très difficile à dire parce que le cinéma, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que le cinéma, il y a un risque normal, artistique, il y a un risque économique, et puis aujourd'hui, il y a cette petite donnée sanitaire. Mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est qu'on aimerait bien se rapprocher le plus possible des 46 millions d'entrées de l'été 2019.
Il y a aussi une chance pour le cinéma français, c'est que les blockbusters américains ne vont pas sortir avant juillet, je crois.
Alors, il y a une chance.
Ça leur laisse plusieurs semaines, plusieurs mois pour exister.
Il y a une chance qui est même, de mon point de vue, encore plus large que ça, c'est non seulement il y a peu de blockbusters dans les prochaines semaines, mais on voit aussi que c'est un été où, par exemple, les Minions s'est décalé à 2022, Top Gun s'est décalé à 2022, et pour la première fois, c'est un été où il va y avoir des gros films français. On va avoir la sortie du premier Kaamelott, on va avoir la sortie d'OSS, on va avoir la sortie de FL, donc c'est généralement un temps dévolu au film américain, qui cette fois-ci va être aussi un temps de film français.
Merci beaucoup Christophe Courtois, directeur de la distribution de la SND. On aurait pu aussi parler de la France qui a été un des rares pays à continuer à produire des films pendant cette période très particulière. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Donc bon vent, bonne chance à partir de mercredi.
Merci.
7h24, bonjour Anthony Martin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Une belle pépite à suivre.
J'espère.
On va voir ça, à tout de suite.
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
RTL Matin. Jérôme Florin.
On a hâte de vous retrouver comme chaque jour, Anthony Martin. Qu'est-ce que vous avez pour nous comme pépite ce matin ?
Alors, musique classique ce matin.
Ah !
Des partitions les plus célèbres de Mozart, la marche turque, troisième mouvement de la 11e sonate pour piano, tout se joue sur le rythme, et certains n'ont pas eu peur de mettre des paroles sur cette musique pour en faire une chanson. Le résultat vaut souvent le détour. Exemple, en 1957, Boris Vian voulait absolument en faire un cha-cha-cha.
Douce mélodie qui fit 100 fois le tour du monde et que Mozart négligeait d'agrémenter de quelques cha-cha-cha sur ton rythme gai, danser les brunes et les blondes en oubliant le temps bien proche ou bien de tes beaux petits doigts. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, c'est votre vieille marche turque. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha, venez marquise, écoutez ça.
Vous prenez d'Istanbul, sous les pergolas, tous les jeunes turcs s'en vont danser le cha-cha-cha.
C'est dur de respirer sur la marche turque. L'année 2021 marque les 230 ans de la mort de Mozart. C'est l'année Mozart, ce qu'a chanté Nino Ferrer.
Il n'y a rien à faire, il est bien trop tard. Je n'aurai jamais le temps de déchiffrer Mozart. Et pourtant le temps s'envole et la vie court et c'est fini. Si Mozart avait connu Mickey, j'aurais bu beaucoup de whisky. Moi j'aurais conduit l'automobile, car je suis le seul qui a son permis. Il n'y a rien à faire, il est bien trop tard. Il n'y a que des guerres et des angoisses et des horreurs. C'est pourquoi je lève mon verre à la santé de Mozart.
Voilà, l'année Mozart, un des morceaux de l'album La Désabusion de Nino Ferrer, sorti en 93. Et je vous ai gardé la palme d'or pour la fin. Il y a peu de faux pas dans le répertoire de Michel Delpech, mais alors non. Sur un 45 tours non. Sorti en 1967, on trouve cette incroyable chanson intitulée Tête de Turc.
À peine éveillé dans mon doux coton, j'entrais dans la vie quand je sortais de mon cocon, mais je n'avais pas les ailes des grands papillons. Tête de turc, moi je l'étais dès ma naissance. Tête de turc, j'ai peut-être la tête à ça. Tête de turc,
avec les cœurs.
Quand j'aurai ma revanche, tête de turc, je n'aurai plus ma tête à moi.
Et le pipeau, ouais. C'est une des pépites du répertoire de Michel Delpech sur la marche turque de Mozart.
Vous avez dit, il y a peu de faux pas dans le répertoire de Michel Delpech, oui. Mais j'ai beaucoup aimé le mais. Hein. C'est étonnant. Merci beaucoup, Anthony.
À demain,
même heure. Vos grosses têtes chaque jour sur RTL, 15h30, 18h, exprès.
Walibi qui a rouvert hier, puisque les Belges ont un peu d'avance sur nous.
Alors excusez-moi, c'est Walibi ou Walibi Schtroumpf ? Parce qu'il y a un Walibi qui s'appelle Walibi Schtroumpf, où il y a aussi des Schtroumpfs. C'est vrai, hein ?
C'est en France, Walibi Schtroumpf.
Alors il est fermé. Donc
il est fermé, le Walibi.
Vous avez Walibi Aquitaine et Walibi Rhône-Alpes en France.
Oui, mais Walibi Schtroumpf, c'est pas une région contrairement.
Non, mais on dit Walibi Aquitaine. Et Walibi, ça veut dire kangourou. kangourou, évidemment.
Oui, c'est un kangourou. Mais c'est quoi la particularité du wallaby par rapport
pas du wallaby, ça c'est dans... ça c'est non, quand vous commandez
c'est la
japonais.
Wasabi.
Je suis jamais allé, j'aimerais bien aller y un jour.
C'est vrai.
Ouais,
mais c'est fermé encore.
C'est Disneyland.
Je t'emmènerai.
C'est génial ou pas?
Je t'emmènerai, j'ai des passes.
N'y allez pas parce que
on y va regarder.
N'y allez pas, les gens vont se demander qui est à l'intérieur.
Voilà l'ambiance dans les grossettes chaque jour, 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Alors, est-ce que vous êtes venu encore avec des mauvaises nouvelles pour lundi?
Oui. Vous ne voyez pas les images satellites.
Bon, c'est pas de votre faute en même temps.
Non, c'est pas de ma faute, mais moi j'aimerais bien changer de musique, hein, moi aussi. Ouais. Avoir une musique un peu plus agréable, un peu plus douce. Eh ben non, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Je vais vous dire la même chose, les mêmes ingrédients, donc des passages nuageux, quelques éclaircies. On voit bien au milieu des averses, il y en a quand même un petit peu. Ça dure jamais très longtemps,
non,
des averses. En cours d'après-midi, des orages. On va ajouter quelques orages. Et puis le vent maintenant. Oui, oui, 70-80 km/h tout au long de la journée, dans la moitié nord, près de la Manche, dans le sud. Bref, il y en a pour tout le monde. Une petite nuance quand même, cet après-midi, en bord de mer, peut-être près de l'Atlantique, sur les littorales de la Manche, un peu plus d'éclaircies, un peu moins d'averses. C'est encore plus vrai dans le sud. C'est vrai que normalement, des Pyrénées à la Méditerranée, vous devriez passer au travers de ce régime d'averses, mais avec toujours beaucoup de vent sur le littoral méditerranéen. Puis côté température, c'est toujours pas ça. Hier soir, il faisait froid, il faisait frais. Enfin, c'est incroyable, on est quand même le 17 mai. Ouais. 14 à 17 degrés, justement, on ne les dépassera pas dans la moitié nord. 17 à 18 degrés dans le sud-ouest. Il y a que près de la Méditerranée, ça ira un peu mieux. 25 degrés quand même, les Vénards. Du côté de Nice ou encore Bastia.
On a quand même une pensée pour tous ceux qui sont partis en week-end, en long week-end et qui ont eu de la pluie et les bouchons au retour.
Bon, voilà. Au moins ils se disent qu'au retour c'est pareil. Donc
c'est ça, voilà, ça change pas. Ça merci pas. Beaucoup Louis, excellent réveil à tous sur RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Jérôme Florin.
L'heure du Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est d'abord les suites de l'affaire Valentin Marcone. Le jeune homme de 29 ans a été mis en examen hier soir pour assassinat. Il est accusé d'avoir tué de sang-froid son patron et un collègue. Il n'exprime aucun regret. En garde à vue, il a parlé de ses tendances paranoïaques. Il venait travailler armé depuis des mois. Il portait même un gilet pare-balles depuis 3 ans. Et puis Valentin Marcone est revenu sur sa cavale dans la forêt. Écoutez le colonel Bertrand Michel du groupement de gendarmerie de Nîmes.
Il se trouvait environ 600 mètres de son habitation. Une espèce de trou à cochon, à sanglier, qu'il a aménagé à main nue de manière à pouvoir agrandir le trou. Et finalement, il s'y est erré pendant de très longues heures. Il avait choisi un endroit à proximité d'un ruisseau. Le mardi matin, le jour des faits, il avait fait plusieurs orages, donc les ruisseaux étaient gorgés, donc il avait de l'eau à disposition. Néanmoins, il n'avait pas de nourriture. Alors, d'après ses déclarations, il n'a pas entendu les appels de son père relayés par nos soins. Il ne les a pas perçus, pas entendus. Sa fuite et donc la traque a duré 83 heures en tout.
Le colonel Michel avec Hugo Hamelin. À Ivry, le garçon de 14 ans soupçonné d'avoir poignardé à mort une jeune fille de 17 ans a été mis en examen et écroué pour meurtre hier soir. Selon son avocat, il n'avait pas l'intention de tuer, mais il reconnaît sa participation à la dispute qui a viré au drame.
Au Proche-Orient, Isabelle, la violence est encore montée d'un cran cette nuit dans la bande de Gaza.
L'aviation israélienne a pilonné le territoire des dizaines de fois en quelques minutes. Des centaines de bâtiments ont été endommagés. Depuis une semaine, ces attaques ont fait presque 200 morts côté palestinien, dont au moins 58 enfants, d'où l'indignation de Salman El-Erfi, chef de la mission Palestine en France.
Et celui qui est visé, c'est le peuple palestinien tout entier. Le monde entier devrait être indigné de ce que fait Israël. Et ça, Israël organise un nettoyage ethnique contre le peuple palestinien pour faire plaisir à M. Netanyahu et ses extrémistes qui sont au gouvernement. La fin de l'occupation, c'est la fin de la guerre.
Salman El-Erfi, invité de Vincent Parisot ce week-end sur RTL. De son côté, le Hamas a tiré plus de 3000 roquettes vers Israël. On compte 10 victimes côté israélien, dont un enfant. La diplomatie est au point mort. Les États-Unis bloquent l'adoption d'une résolution commune à l'ONU.
Et à 8h20, on sera avec Daniel Saada, l'ambassadeur d'Israël en France. Retour en France, la pression continue de baisser à l'hôpital.
Le nombre de patients Covid en réanimation est tombé à environ 4250. Et pour la première fois cette année, il y a eu moins de 100 morts à l'hôpital sur les dernières 24 heures, 81 exactement, alors qu'on vient de passer la barre des 20 millions de primo-vaccinés. Ils ont été très sollicités depuis le début de la crise. Les 11 000 infirmiers anesthésistes de France sont en grève aujourd'hui. Ils réclament notamment des hausses de salaire et une véritable reconnaissance. Écoutez Arnaud Warouf, membre du collectif national des infirmiers anesthésistes.
Nous, les infirmiers anesthésistes, sommes très en colère face à un épuisement de la profession. Nous sommes épuisés professionnellement et personnellement par cette situation, d'autant plus que on a un gouvernement qui s'obstine à refuser de nous reconnaître un statut en relation avec nos compétences et notre formation, à savoir le statut d'auxiliaire médical en pratique avancée.
Un propos recueilli pour RTL par Odile Pouget. Et à l'instant, Sanofi annonce qu'il publie des résultats positifs de phase 2 pour son candidat vaccin, un vaccin français. Donc on va y revenir tout à l'heure dans le journal de 8h. Au chapitre politique, c'est aujourd'hui le dernier jour pour le dépôt des listes régionales. Dernière limite à midi. À un an de la présidentielle, c'est un scrutin à haut risque. Et c'est sans doute pour cela, Jacques Seret, que tant de ministres mouillent la chemise.
Oui, ils sont 13 membres du gouvernement à se lancer dans cette bataille des régionales. Et deux régions concentrent la plupart de ses ministres et secrétaires d'État, Laurent Pietraszewski, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Alain Griset et Agnès Pannier-Runacher se présentent dans les Hauts-de-France, tous les cinq bien décidés à porter la parole de la majorité présidentielle face au Rassemblement national, mais aussi à gêner le président de région sortant, Xavier Bertrand, déjà candidat à la présidentielle. Autre région, autre enjeu, l'Île-de-France et ses 12 millions d'habitants. Là aussi, 5 membres du gouvernement se lancent, notamment Marlène Schiappa à Paris et, selon nos informations, Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine, mais en position non éligible. Enfin, la majorité présidentielle s'appuie également sur les ministres issus du Modem. Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement, se présente en Centre-Val-de-Loire et Geneviève Darrieussecq, chargée des anciens combattants en Nouvelle-Aquitaine. L'ex-LR Brigitte Klinkert, chargée de l'insertion, elle, candidate dans le Grand Est.
Jacques Seret, donc l'un de ces candidats. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sera l'invité d'Alba Ventura dans 5 minutes sur RTL. Le foot, Isabelle, il faudra attendre dimanche prochain pour connaître le champion de France.
Ouais, ça faisait presque 20 ans qu'on n'avait pas connu un tel suspense. Lille a laissé filer l'occasion de rafler le titre dès hier soir avec son match nul 0-0 à domicile face à Saint-Etienne. Dans le même temps, Paris l'a emporté 4-0 contre Reims et revient à un point des nordistes. Rien n'est joué donc. De quoi donner bien des regrets à l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier.
On a fait une très mauvaise entame de match, beaucoup de nervosité, beaucoup d'erreurs techniques, sûrement pris par l'enjeu. Nous n'avons pas fait le match qu'on attendait. J'aurai une discussion avec les joueurs pour qu'on soit beaucoup plus calme, pas tranquille, mais calme. Et il faudra mieux maîtriser notre sujet sur le dernier match.
Christophe Galtier avec Samuel Duhamel. Dans les autres matchs, victoire de Monaco sur Rennes 2-1 et Lyon a écrasé Nîmes 5-2. Nîmes qui du coup rejoint Dijon en Ligue 2. La bataille est rude aussi en bas de tableau pour éviter la dernière place de relégable. Bordeaux semble tiré d'affaire grâce à sa victoire 3-0 sur Lens, mais tout reste à faire pour Strasbourg malgré un succès 2-0 à Nice. Brest reste sur un match nul 0-0 à Montpellier. Lorient a battu Metz 2-1 et Nantes l'a emporté 4-0 à Dijon. J'ajoute que Marseille reste en course pour la Ligue Europe grâce à sa victoire 3-2 sur Angers.
Isabelle Choquet, on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, et on va parler de la fin de vie, celle de Guy Bedos, en l'occurrence racontée par son fils Nicolas, un récit coup de poing.
A tout à l'heure, Isabelle, 7h36. Bonjour François Langlais.
Bonjour Jérôme.
Vous nous parlez de pirates ce matin.
Oui, de pirates informatiques parce que leurs attaques se multiplient. Mais vous allez voir, ils se sont pris une bonne baigne ce week-end. Vous savez, exactement comme dans Astérix, quand le bateau des pirates croise les Gaulois.
Oui.
Mais c'est un peu ce qui est arrivé, je vous raconte ça.
Les Gaulois. 7h36, à tout de suite François, merci.
RTL Matin, Jérôme Florin.
L'angle écho avec vous, François Langlais. Donc c'est une véritable guerre que livrent désormais les pirates informatiques.
Oui, absolument. Il y a quelques jours, je vous racontais l'attaque informatique d'un gigantesque pipeline aux États-Unis qui a ralenti l'approvisionnement en carburant d'une partie du pays. Depuis, on a appris que le système de santé irlandais a été attaqué, avec blocage de l'accès au dossier médical des patients, paralysie totale des soins, les opérations prévues, etc., jusqu'à ce qu'une rançon soit versée. La filiale européenne de Toshiba annonçait également être victime d'une même extorsion de fonds après la paralysie de son système. Hier, c'est l'assureur français AXA qui révélait avoir été attaqué en Asie du Sud-Est. Cette semaine, on apprenait encore qu'Apple s'était fait voler les plans d'une gamme d'ordinateurs par un groupe qui menaçait de les divulguer faute d'un paiement de 50 millions. Et encore, il ne s'agit que des affaires publiques.
On sait combien d'attaques ont été perpétrées ?
D'après les estimations, en 2020, ces attaques ont rapporté aux pirates quelque 15 milliards d'euros. Et c'est un montant en hausse de 60%, avec une rançon moyenne de 120 000 euros. Hausse pour une raison simple, le télétravail. Il a multiplié les brèches dans les systèmes informatiques parce que la collection à domicile des particuliers est bien moins bien protégée que le réseau des entreprises. Du coup, bah, les pirates en profitent.
Alors ces pirates, qui sont-ils ?
Il y aurait une grosse vingtaine de bandes organisées, figurez-vous, principalement situées en Russie, comme Darkside. C'est celui qui a attaqué justement le pipeline américain. Et comme Darkside, certains d'entre eux ont développé de vrais business, avec des franchises. Ils cèdent le droit d'utiliser leur logiciel d'attaque à de petits malfrats contre un pourcentage de la rançon. Toutes les transactions se déroulent sur le dark web. Vous savez que c'est une sorte d'internet parallèle non surveillé. Les paiements sont effectués en crypto-monnaie comme le bitcoin. Un quart des victimes payent. Parce que jusqu'ici, certains contrats d'assurance remboursent les rançons.
Et comment ça a fini le pipeline ?
Ben, il a repris ses activités quasi normalement, mais l'agence Bloomberg nous apprend que Colonial, c'est l'entreprise qu'il gère, a fini par payer une rançon de 75 bitcoins. Ça sent pas beaucoup.
Non, ça fait combien ?
À votre avis ?
Je sais pas.
Eh ben, c'est près de 5 millions de dollars. C'est plus de 4 millions d'euros. Donc, c'est pas rien. Alors, l'histoire s'arrête pas là parce qu'il y a 3 jours, les serveurs américains qui avaient servi d'intermédiaire dans la communication avec la Russie, hein, justement la patrie des hackers, ont été victimes d'un raid effectué par des sociétés de la tech et probablement par les agences fédérales américaines de lutte contre la criminalité. Le coffre-fort des criminels, dans lequel il y avait 17 millions de dollars en bitcoin, a également été saisi. Dans la foulée, Darkside a annoncé qu'il cessait toutes ses activités. C'est le bateau d'Astérix.
Oui, donc ça veut dire qu'on a des moyens pour se défendre dans cette guerre.
Oui. Le ministère de la Justice américain vient de se doter d'une unité spéciale pour les cas de rançonnage informatique. Les grandes entreprises dans la technologie consacrent maintenant des moyens considérables pour prévenir ces attaques. Et ce sont demain toutes les organisations en réseau qui vont s'équiper contre ce nouveau fléau. La sécurité informatique, c'est un secteur en plein boom. La Chine a trouvé une parade intéressante. Tout pirate de haut niveau appréhendé se voit proposer une alternative. Soit il accepte de travailler pour le gouvernement, soit il part exercer ses talents en prison. L'âge d'or des pirates informatiques est peut-être en passe de se terminer.
Très intéressant, une nouvelle fois. Merci beaucoup, François Langlais. À demain.
À demain.
Il est 7h41, oui. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Votre invité dans un instant.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Encore un ministre candidat, tiens, avec lequel nous allons parler des réouvertures plus que 48 heures.
À tout de suite.
RTL Matin, Jérôme Florin.
7h44, Alba Ventura, vous recevez le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Avez-vous été choqué par le fait qu'Israël bombarde un immeuble qui certes abritait le siège du Hamas, mais également 2 médias internationaux, l'agence de presse américaine AP et la chaîne de télé Al Jazeera, des médias donc?
Je suis très attaché au droit à l'information, évidemment en tant que membre du gouvernement français, en tant que porte-parole du gouvernement aussi, attaché à la protection des civils. Et attaché aussi à la sécurité d'Israël et au droit d'Israël à se défendre. C'est une situation qui est extrêmement compliquée. C'est une situation qui a provoqué une escalade ces derniers jours. Et évidemment, on appelle à la désescalade et on appelle à la modération, y compris dans les répliques que peut avoir Israël face à des attaques qu'elle subit sur son sol.
Mais pour autant, on voit bien que la diplomatie est dans l'impasse. Il n'y a pas eu d'accord au Conseil de sécurité de l'ONU. Emmanuel Macron a fait une déclaration d'un équilibre parfait. Est-ce que la France a la capacité d'intervenir, de faire quelque chose ?
Oui, la France est à l'initiative. Il y a une offensive diplomatique ces derniers jours qui va se poursuivre dans les prochaines heures. Mmh. On soutient l'idée d'une médiation égyptienne, parce que les Égyptiens, comme les Jordaniens, parlent à tout le monde dans la région. Vous savez que le président égyptien sera à Paris aujourd'hui, donc il échangera sur ce sujet avec le président de la République. Il y a 2 choses qui sont nos objectifs aujourd'hui. D'abord, le cessez-le-feu. Plus rapidement possible. Et ensuite, la capacité à trouver une solution de stabilisation durable pour la région. C'est ça nos 2 objectifs et c'est à ça qu'on va travailler, notamment avec les Égyptiens, les Jordaniens, les Allemands. Il y a un groupe qui s'est constitué pour être offensif sur cette question.
On peut regarder ce conflit sans prendre parti ?
Je crois qu'il faut se garder d'importer ce conflit sur notre sol politiquement. Ça peut être une tentation de certaines formations politiques. En tout cas, c'est extrêmement important de savoir rechercher l'intérêt de tous. Et l'intérêt de tous, c'est la désescalade et c'est un cessez-le-feu le plus rapide possible.
Revenons en France, Gabriel Attal. Un adolescent de 14 ans est mis en examen pour meurtre sur une autre adolescente de 17 ans à Ivry. On voit bien qu'il y a de plus en plus de faits dramatiques qui concernent de plus en plus de jeunes. Je vous soumets, tiens, la proposition de Xavier Bertrand qui souhaite l'instauration de la majorité pénale à 15 ans.
On a réformé le code de justice des mineurs. Ça a été adopté par le Parlement en décembre dernier. Ça faisait, je crois, 10 ans qu'on en parlait. Et nous, on a pris nos responsabilités, on a adopté cette réforme. Et qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet quelque chose de très simple. Elle permet que quand vous avez un mineur qui commet un acte délictueux, il soit confondu et il soit jugé beaucoup plus rapidement que c'était le cas jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, vous avez en moyenne 18 à 24 mois entre la commission d'un acte et une comparution devant un juge et un jugement. C'est évidemment inacceptable. Et donc, on va passer ce délai, à partir de septembre, entre 3 et 9 mois. Parce que la délinquance, ça commence effectivement très jeune et ça commence parfois par des petits actes délictueux. Et nous, ce qu'on veut, c'est revenir à ce bon vieux principe. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Tu es sanctionné immédiatement. Parce que c'est aussi un enjeu éducatif. Et donc, on se donne les moyens avec cette réforme du code de justice des mineurs, avec une augmentation du budget de la justice aussi, historique, plus 8%, pour recruter des magistrats, des greffiers, en travaillant mieux avec les services de l'éducation nationale aussi, pour être plus efficace.
L'avocat du meurtrier présumé accuse les réseaux sociaux dans le passage à l'acte. Ça aussi, c'est un enjeu, les réseaux sociaux. Pour l'instant, on n'arrive pas à lutter contre
ça. C'est un enjeu, évidemment, quasi civilisationnel, qui concerne le monde entier. Et on y travaille notamment via l'éducation nationale. C'est un enjeu d'éducation. Voilà. Il faut arriver à être plus efficace dans le cadre de l'éducation nationale, de l'école, pour former les jeunes, les éclairer sur l'utilisation des réseaux sociaux, oui, qui peuvent entraîner une escalade de la violence, qui entraîne, on le sait, des phénomènes de harcèlement qui se prolongent en dehors des murs de l'école. Et donc oui, c'est un enjeu de longue haleine, mais sur lequel, pour le coup, on met aussi le paquet.
Alors Gabriel Attal, vous êtes vous aussi candidat au régional. Je dis vous aussi parce qu'au dernier comptage, vous êtes quoi, au moins 14 ministres candidats. C'est le président Macron qui vous envoie tous au front.
Laurent Saint-Martin m'a proposé d'être sur sa liste pour ces régionales en Ile-de-France, dans mon département, qui est celui des Hauts-de-Seine, et j'ai évidemment accepté, parce que j'aime ma région.
Vous êtes en dernière position sur la liste.
Oui, mais vous savez, je m'engage dans cette élection. Moi, je ne cours pas après les postes. J'ai 32 ans, Alba Ventura, je suis porte-parole du gouvernement. J'ai été élu député en 2017. Et je l'ai été, pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron a fait le choix du renouvellement, de permettre à des personnes qui n'avaient pas de mandat jusqu'à maintenant d'être élues. Et donc, moi, je suis très heureux que la liste dans les Hauts-de-Seine, la tête de liste, ce soit une jeune élue de 37 ans, de Courbevoie, Aurélie Taquilin, et de lui apporter tout mon soutien pour porter ce projet.
Mais vous y allez pourquoi ? Parce qu'on sait bien que La République En Marche ne va pas faire des étincelles à ces élections.
Ça, c'est vous qui le dites.
Ah bon ?
Vous
savez, quand il n'y a que moi qui le dis.
Mais quand on est engagé à La République En Marche et quand on s'est engagé derrière Emmanuel Macron, on est passé par des moments où on nous a dit « Vous n'allez pas faire d'étincelles, vous n'allez pas réussir à gagner des élections. » Et puis, on a montré qu'on était capable de le faire.
Bah, donc, on a vu qu'au municipal, ce n'était pas ça. Les régionales s'annoncent difficiles.
Les élections, elles sont dans plus d'un mois et on va mener ce combat et cette campagne. Vous savez, moi, j'aime ma région. On est à un moment crucial avec la relance économique, la reconstruction. On a besoin d'avoir des régions qui sont partenaires de l'État, du gouvernement, pour relancer économiquement le pays. On a besoin de partager des priorités. Chaque voix qui est apportée à une liste de La République En Marche, de la majorité présidentielle pour ces élections régionales, c'est une voix pour la relance et la reconstruction. Je vous donne un exemple en Ile-de-France. Il y a une priorité qui est pour nous très importante dans la relance, c'est la culture. Ça ne figure absolument pas dans les priorités aujourd'hui de la région Île-de-France. Quelques dizaines de projets qui ont été annoncés, qui doivent être soutenus pour cet été, mais il faut être beaucoup plus ambitieux.
Donc votre adversaire, vous, c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région.
Mais bien sûr, parce que moi je crois aux compétences de la région. Valérie Pécresse, elle se déplace beaucoup dans les plateaux de télévision, elle donne beaucoup de leçons sur beaucoup de sujets.
C'est votre adversaire, Valérie Pécresse.
Sur les compétences de la région Île-de-France, il y a des manquements aujourd'hui.
Donc en PACA, vous faites des alliances, ou presque, puisque LREM.
C'est des élections locales, donc on regarde au niveau local, au niveau régional. Demandez à une jeune femme, aujourd'hui, en Île-de-France, si elle se sent en sécurité le soir, quand elle prend les transports, quand elle prend le métro, quand elle prend le RER. Ça, c'est une compétence de la région Île-de-France. Valérie Pécresse, elle donne beaucoup de leçons sur la sécurité, sur plein de sujets au niveau national, mais sur ce sujet-là, elle a failli, et c'est sur ce sujet-là, notamment, qu'on va s'engager pour que pas uniquement les jeunes femmes d'ailleurs, mais tous les franciliens qui prennent les transports se sentent en sécurité. C'est une des priorités de Laurent Saint-Martin sur cette liste.
Vous pensez que le Rassemblement national de Marine Le Pen peut remporter des régions ?
C'est évidemment un risque et il faut tout faire pour l'en empêcher. C'est pour ça qu'il faut faire des propositions qui répondent concrètement aux aspirations des Français au niveau de leur région. Et c'est ce qu'on fait dans chacune des régions avec les listes de la majorité présidentielle. Qu'on soit d'ailleurs une liste autonome ou qu'on ait rejoint un rassemblement plus large comme c'est le cas en PACA.
Il y aura un remaniement après ces élections ?
Alors ça, je n'en ai absolument aucune idée.
Gabriel Attal, on ouvre un peu les portes et les fenêtres avec les réouvertures mercredi des terrasses, des musées, des cinémas. Qu'est-ce que vous dites aux uns et aux autres qui s'apprêtent à se relâcher un peu ?
D'abord, c'est un moment de libération pour tous les Français qui était très attendu. Moi, il y a quelque chose que je veux dire. Quand le président de la République s'est exprimé à la fin mars, qu'il a annoncé des mesures de restriction de déplacement, la fermeture des écoles pour une semaine en allongeant les vacances scolaires, on a entendu des gens, des commentateurs, des politiques, de l'opposition, des scientifiques se ruer dans les médias pour dire « mais ça ne durera jamais 4 semaines, il ne tiendra jamais son calendrier ». Il a tenu son calendrier. Et quand il l'a confirmé il y a quelques semaines, avec les réouvertures du 19 mai, on a entendu les mêmes commentateurs, les mêmes opposants politiques
ruer dans
les médias.
C'est
pas
comme si on n'avait pas quand même une épée de Damoclès. Enfin, pour dire, les scientifiques parlent d'une quatrième vague éventuellement.
On a entendu encore une fois ces commentateurs se ruer dans les médias quand le président a confirmé ce calendrier pour dire c'est irresponsable, il aurait fallu laisser les écoles fermées, il ne faut pas rouvrir les terrasses, etc. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Que les signaux sont au vert. Et ça démontre que le président de la République a eu raison dans ce calendrier. Et ça donne tort à tous les prophètes de malheur, à tous ceux qui ne croient pas à la responsabilité des Français. Donc pour vous répondre très concrètement, moi je crois profondément que les Français sauront être responsables. Évidemment qu'il ne faut pas baisser la garde. Évidemment qu'il faut rester vigilant. Vous l'avez dit, il y a des variants, il y a toujours des risques. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place un calendrier de réouverture qui est très progressif, qui est prudent, qui se fait par étapes. Et moi, j'ai confiance dans la responsabilité des Français. Ils ont montré ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'ils savaient être responsables.
Il fallait de toute façon basculer pour vous d'une stratégie sanitaire à une stratégie plus économique.
Depuis le début, on tient compte de différents enjeux. Évidemment que notre boussole, c'est le sanitaire. Et moi, je suis très fier, pour le coup, qu'en France, on ne se soit pas retrouvé dans des situations telles qu'on a vu chez certains de nos voisins européens, avec des hôpitaux totalement débordés et des personnes devant être prises en charge sur le parking de l'hôpital. Mais évidemment que la question, pas uniquement économique, mais la question de la vie sociale tout court, elle rentre en compte parce qu'elle est aussi une question de santé. La question psychologique, c'est aussi un enjeu de santé.
Une quinzaine de maires du littoral appellent à la réouverture des discothèques pour éviter des fêtes sauvages sur les plages. C'est un argument qui pèse.
C'est évidemment un argument. Et dès qu'on pourra rouvrir les discothèques, on le fera.
Vous ne pouvez pas leur donner de réponse, là.
Il y a une clause de revoyure qu'on a fixée à la mi-fin juin. Donc à la mi-fin juin, on pourra dire aux discothèques ce qu'il en est. Moi, je les entends. Ça fait plus d'un an qu'ils sont fermés. Ils n'ont jamais rouvert depuis le début. Ils attendent qu'une chose, c'est de recommencer à travailler. Il y a beaucoup de Français qui attendent de pouvoir retourner en boîte. Et dès qu'on le pourra, évidemment, on l'autorisera.
On parle beaucoup du casse-tête de la seconde dose de vaccin avec ceux qui seront en vacances. Il y a une autre question qui concerne Pfizer. Pfizer estime l'efficacité de son vaccin jusqu'à 6 mois. Est-ce que ceux qui se sont fait vacciner en janvier vont devoir recevoir une troisième dose en juillet ? Alors, d'autant que c'était les plus fragiles qui se faisaient vacciner au tout début.
Il faut être clair. Effectivement, le président de Pfizer a dit qu'il y aurait probablement besoin d'un rappel vaccinal. Je crois qu'il a dit que c'était entre 6 et 12 mois. Aujourd'hui, il y a des études qui continuent à être menées. Mais on n'attend pas que ces études soient conclusives pour commander des doses supplémentaires dans le cas où ça serait nécessaire.
Heureusement.
On a commandé des doses de Pfizer jusqu'à 2023. Au niveau européen, je crois que c'est près de 2 milliards de doses qui ont été commandées. Il y a un certain nombre de Français, un demi-million de Français, pour lesquels il est déjà recommandé une troisième dose. C'est ceux notamment qui sont sous immunodépresseurs, qui ont reçu une greffe d'organes. Eux, c'est déjà prévu parce qu'ils sont dans une situation médicale qui le justifie. Pour le reste, pour les Français qui ont reçu 2 doses de Pfizer, il y a des études qui sont en cours et dans les prochaines semaines, on sera à même, Olivier Véran sera à même de se prononcer sur cette question.
Merci beaucoup Gabriel Attal.
Merci. Merci Alba Ventura, merci monsieur le porte-parole du gouvernement. Vous demandiez un cessez-le-feu le plus rapidement possible au Proche-Orient. On en parlera avec l'ambassadeur d'Israël en France tout à l'heure qui sera notre invité, Daniel Saada à 8h20. Merci, bonne journée à vous. Dans un instant, le surf avec Cyprien Sini.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec Jean-Luc Mélenchon.
Événement, premier meeting de campagne pour la présidentielle, ça y est, il a donné le top départ. Et alors, première surprise, j'étais en avance sur sa chaîne YouTube en train d'attendre le début avec impatience. Et là, bah c'est comme à la télé, il y a des pubs France Insoumise avant le meeting. Et notamment ça, écoutez bien.
On a développé des objets, des goodies que vous allez pouvoir acheter. Donc c'est l'instant téléachat.
Des objets France Insoumise pour financer la campagne. Et là, d'un coup, le truc, c'est M6 Boutique. Hein. Ça, à part la musique, c'est sans trucage, écoutez.
Premier objet que nous vous proposons, c'est un mug, plein de mug en porcelaine, fait par la maison de Pili 8, porcelainier depuis 1818. Avec le mug Nous sommes pour, vous serez réveillé dès les premières lueurs du jour. Le deuxième objet que nous vous proposons, c'est le savon de Marseille, fait au chaudron à chaud par les maîtres savonniers du fer à cheval à Marseille.
Eh oui, il y a le mug Mélenchon, le savon Mélenchon, il y a aussi le badge, le t-shirt, bref. En même temps, il faut bien financer la campagne. Place ensuite au discours, et là où je vous dis que c'était un vrai événement, c'est que c'était en public, avec des vrais gens, comme dans la vie d'avant. Bon alors, Covid oblige, c'était quand même en extérieur, à Aubin, dans l'Aveyron. Et là, bah, pas de bol. Niveau météo, c'était la cata, pluie, vent, et 2 heures avant déjà, Jean-Luc, ça le faisait râler en coulisses cette météo, écoutez bien.
Là, qu'est-ce que je fais ? Je prépare le discours. Tout ce tas de papier va s'envoler tout à l'heure, et ceux qui s'envoleront pas vont se remplir d'eau. Donc il est vraisemblable que ça serve à peu près à rien.
Ouais, il râle, j'ai encore bossé pour rien, pas content de la météo, et du coup, bah, d'entrée de jeu, il tape sur la bande à Louis Baudin, hein, sur les prévisionnistes, quoi.
Alors, on nous avait dit, soyez prudents.
prévoyez des chapeaux de paille. Il y aura un soleil brûlant.
Mais premier tacle, hein. Bravo la météo, bravo. Hein. Et alors, une demi-heure plus tard, rebelote, passion météo.
Vous tous qui encore êtes venus ici sous la pluie, voyez ce qui vous arrive. Il pleut. On nous avait dit qu'il ferait beau.
Ah ben bravo.
Il a jamais
bravo Louis. La météo, ils sont encore plantés. Oui, son adversaire, c'est plus Macron, c'est vous Louis Baudin. Bon d'ailleurs, on est allé vérifier. Hein. Je ne sais pas où il est allé chercher ses prévisions de beau temps, parce que ici, vous l'aviez prévenu. Hein.
Je vois d'ailleurs une magnifique perturbation là sur l'Atlantique qui est en train d'arriver. Dimanche, régime d'averse, toujours la fraîcheur.
Ben oui, il va falloir qu'il pense à changer de prévisionniste, Jean-Luc. Hein. Après, c'est vrai qu'on sent que ça lui a un peu pourri son meeting quand même, cette météo.
Ça s'envole.
Vous avez vu comme il fait froid ?
Je me demande où est passée ma dernière feuille. Ah, revoilà mon papier. Ta 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 ta, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Un peu agacé, certes, mais je rassure ses fans. Tel Jen Kelly en Insoumis. Ce joueur des éléments, le leader Maximo de la Canebière, a aussi chanté sous la pluie.
Ça va, vous me voyez bien ?
On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Et ben alors, ça vaut pas le Rat Pack de Las Vegas, hein, mais un vrai meeting avec des vrais gens, ça a au moins le mérite de nous rappeler que le bout du tunnel n'est peut-être plus très loin.
Merci beaucoup Cyprien Sini. Bon, on va encore chanter sous la pluie aujourd'hui, Louis.
Ouais, exactement, il faut quand même qu'il change de source d'informations météo.
Bah, apparemment, sa source c'est pas le Bigodin. Hein.
Là, ça va pas du tout. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ça ne change pas. Donc, il y aura des averses. Voilà, on le répète, hein, des averses sur quasiment toutes les régions, entrecoupées quand même de quelques trouées, des averses parfois accompagnées d'orages. Et ça, c'est sur la plupart des régions. Alors, si je cherche quelques nuances quand même, cet après-midi, près de la Manche, sur le littoral atlantique, on devrait avoir un peu plus d'éclaircies et un petit peu moins d'averses. Même chose dans l'extrême sud, hein, du Pays Basque jusqu'à la Méditerranée. Là aussi, un petit peu plus de soleil, mais avec du vent sur le littoral méditerranéen jusqu'à 80, voire 90 km/h en Corse. Un vent qui soufflera d'ailleurs dans toutes les autres régions jusqu'à 70-80 km/h, y compris dans les terres. Donc encore un temps agité. Et puis j'ajoute de la neige. Bah oui, la neige qui tombera dès 1500 mètres, encore une fois, dans les Alpes du Nord, parce qu'il fera toujours aussi frais. Ce matin, on est entre 5 et 10 degrés. Je rappelle qu'on est le 17 mai quand même. 14 à 17 degrés, justement, pas plus dans la moitié nord, alors qu'on devrait dépasser les 20 degrés. 17 à 18 degrés dans le sud-ouest. Et puis 22 à 25 quand même, près de la Méditerranée. Là, ça sera un peu mieux.
Et le retour du soleil, c'est pas demain la veille. Hein. Vous nous préciserez ça tout à l'heure à 8h30. Merci beaucoup, Louis. Il est pile 8h sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Le journal, c'est avec vous, Olivier Bois, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et à la une, cette question, Sanofi va-t-il sauver l'honneur ?
Le laboratoire distancé dans la course au vaccin vient de présenter les résultats de ses dernières études. On fait le point dans un instant. J-2 avant la réouverture des terrasses, vous verrez que certains serveurs, un peu rouillés, suivent des formations de remise à niveau. Israël a encore intensifié ses frappes aériennes cette nuit sur la bande de Gaza. La journée d'hier a été la plus meurtrière depuis une semaine. Et puis le football, suspense en tête de Ligue 1 après le match nul de Lille et la victoire de Paris. Tout se jouera lors de la dernière journée. On n'avait plus vu ça depuis 19 ans.
RTL Matin.
700 millions de personnes dans le monde ont reçu au moins une première injection du vaccin contre la Covid. Un an et demi seulement après l'apparition de ce virus, ça restera dans l'histoire de la médecine comme une prouesse sans précédent. Et la recherche française aura pour le coup, et pour le moment en tout cas, complètement raté le coche. Sanofi, très vite, a été distancé par Pfizer, BioNTech, Moderna ou encore AstraZeneca. Les Russes et les Chinois ont également leur propre vaccin. Nous l'attendons toujours. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Où on est donc le laboratoire français qui vient de présenter effectivement ce matin les résultats de ses dernières études.
Résultat de l'étude de phase 2 qui permet d'évaluer la réponse immunitaire, pas encore l'efficacité du vaccin en tant que tel. 700 personnes incluses, 722 très exactement. Le vaccin Sanofi développé avec GSK induit une production élevée d'anticorps neutralisants pour combattre le Covid dans 95 à 100% des cas, avec des performances très élevées chez les plus jeunes. Autre information, le sérum semble bien toléré, pas de problème de sécurité. Résultat encourageant, positif après l'échec de cet hiver. Mal dosé, le précédent vaccin avait dû être abandonné. La prochaine étape, c'est maintenant la phase 3, avec 35 000 personnes qui va commencer dans les tout prochains jours pour tester cette fois-ci donc l'efficacité du sérum pour éviter les formes graves du Covid et la mortalité. Deux variants seront testés, variant chinois, historique, et le variant sud-africain. Si tout va bien, résultat à l'automne et première dose dans la foulée fin 2021.
En théorie, d'ici là, Sophie, on sera tous vaccinés. À quoi va donc servir ce vaccin Sanofi ?
Voilà ce que répond Thomas Triomphe, le responsable monde de Sanofi Pasteur.
We know that different vaccines
Tous les vaccins seront utiles pour lutter contre la pandémie, d'autant que chacun fonctionne différemment. ARN messager pour Pfizer et Moderna, virus inactivé pour AstraZeneca, vaccin recombinant avec adjuvant pour Sanofi, avec donc le même principe que celui de la grippe. Tout dépendra aussi bien sûr des variants. Et le laboratoire français va également se positionner sur la dose de rappel, une dose de boost quelques mois après une première injection. Nous en serons là l'hiver prochain.
Merci beaucoup Sophie Orange. On rappelle à ce stade les chiffres chez nous. 20 millions de Français ont été vaccinés. L'objectif reste d'atteindre les 30 millions mi-juin avec une première dose. Et l'épidémie, elle continue de régresser. On est sous les 15 000 cas détectés par jour en moyenne depuis une semaine.
Voilà donc pour les indicateurs plutôt encourageants à deux jours de la nouvelle phase de déconfinement.
Marcel, deux cafés pour la carte, s'il te plaît. Et un soda pour la petite dame.
Eh oui, J-2 avant la réouverture, entre autres, des cinémas, des musées et des terrasses. On continue à suivre, vous le savez, sur RTL, la machine qui se remet en route. Figurez-vous qu'après une telle période sans travail, certains serveurs sont un peu rouillés et des formations de remise à niveau sont proposées, comme ici à côté de Montpellier, reportage de Pierre Collat.
Des tables, des chaises et un vrai bar. Nous ne sommes pourtant pas dans un restaurant, mais bien dans une salle de cours.
Alors, il faut 3 points d'appui sur l'assiette. 1, 2 et 3. Là, t'es trop en arrière. Il faut que tu t'avances et qu'il faut que ton assiette, voilà, elle soit en contact. Okay. T'es stable ?
Ouais.
Shaima, 21 ans, réapprend à débarrasser une table.
Moi, j'étais serveuse, j'ai travaillé 2 mois, j'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai adoré. On pratique, c'est ça qui est bien, on nous apprend beaucoup. Quand ça va rouvrir, quoi, on sera bien, bien travaillé comme il faut, quoi.
Sébastien, lui, a de l'expérience, 11 ans de service en salle, mais ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas touché une assiette.
On reprend un peu les bases, on reprend à porter un plateau, on fait de la pratique, donc c'est vraiment très bien.
Le prof du jour, c'est Sébastien Sanchez.
L'idée, là, c'est de remettre un petit peu à niveau et de faire quelques piqûres de rappel à ceux qui ont déjà de l'expérience et de enseigner les bases et transmettre les bases du service à ceux qui n'en ont pas du tout et qui se recyclent dans ce domaine-là.
Et les 15 stagiaires finiront leur formation en juin. Ils cherchent déjà du travail pour pouvoir commencer à servir dès le début de l'été.
Voilà, reportage de Pierre Collat pour des serveurs complètement opérationnels dans 2 jours. Les cures thermales rouvrent leurs portes également dans 2 jours. Activité essentielle dans les stations qui vivent essentiellement de l'afflux de touristes en quête de remise en forme. C'est le cas dans le Puy-de-Dôme, au Mont-d'Or, où vous vous êtes rendu, Guillaume Frixon.
Dans les termes du Mont-d'Or, c'est en temps normal plus de 100 personnes qui travaillent et 10 000 curistes qui se succèdent sur l'année. Une aubaine pour les professionnels comme Laurent, dont le magasin est situé à moins de 200 mètres de l'entrée des thermes.
On attend qu'il soit là, oui. Avec impatience, oui.
Avec 1h30 de cure en moyenne chaque matin sur 18 jours, autant dire que le curiste a du temps ensuite pour se faire plaisir dans les magasins de la ville thermale. Théo est vendeur à la petite boutique du Bougnat.
Bien sûr, c'est une grosse clientèle, les curistes. Il prend de la charcuterie, des petits souvenirs pour ramener à ses amis, à sa famille. Donc il va prendre des saucissons à ramener, beaucoup de jambon aussi. C'est vraiment là-dessus qu'on a notre clientèle. Un petit peu de bouteilles de vin, beaucoup de produits du terroir. Ouais, ils se font plaisir. Ils n'hésitent pas.
Et lorsque les cures reprennent, c'est aussi la reprise des locations de logements sur place. Marie-Christine Bovy est agent immobilier au Mont d'Or.
On a beaucoup de réservations pour juin, juillet, août, septembre. Et comme la cure ferme mi-novembre, et ben on a des réservations jusqu'à la fin.
En France, 700 millions d'euros sont dépensés indirectement par les curistes dans l'économie locale.
Merci Guillaume Frixon. Sachez que nos amis britanniques, eux, rouvrent leurs pubs et leurs restaurants aujourd'hui en intérieur, avec tout de même des tables plus espacées. Ils avaient pour le coup rouvert les terrasses le 12 avril dernier.
Il est 8h06 sur RTL. On marque une pause et dans un instant, les raids israéliens qui se sont encore intensifiés cette nuit. Vous allez notamment entendre le témoignage d'un habitant de Gaza. A tout de suite.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal d'Olivier Bois. La journée a été sanglante hier au Proche-Orient.
42 Palestiniens sont morts dans la bande de Gaza. C'est le bilan le plus lourd depuis une semaine. L'armée israélienne, entre autres, a détruit la maison du chef militaire du Hamas. On ne sait toujours pas d'ailleurs à cette heure s'il était à l'intérieur. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou justifie ses frappes en représailles aux très nombreux tirs de roquettes. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
L'armée israélienne qui a d'ailleurs poursuivi ses frappes cette nuit.
Oui, l'aviation israélienne a pilonné la bande de Gaza à des dizaines de reprises en l'espace de quelques minutes. Les bombardements dans cette zone extrêmement peuplée ont été intensifs. Les cibles, selon Israël, ce sont les membres et les infrastructures du Hamas, qui auraient tiré plus de 3000 roquettes vers Israël en une semaine. La plupart, toutefois, étaient détruites avant d'arriver au sol. Dans cette ville de Gaza, impossible, même lors de frappes dites chirurgicales, de ne pas toucher les civils qui sont les premières victimes de ce conflit. Depuis une semaine, ils vivent au rythme du bruit des drones et du passage. passage des avions de chasse. Les jours comme les nuits sont un enfer, raconte cet habitant de Gaza que je viens de joindre.
On ne dort pas la nuit maintenant. Donc nous, on ne dort pas. On reste toute la nuit réveillé à cause de bombardements et c'est difficile. C'est aussi surtout les enfants, ils ont peur et c'est horrible pour les enfants.
Alors il faut rappeler que Gaza, c'est une bande de terre de 40 km de long sur 12 de large au grand maximum, dans laquelle sont enfermés plus de 2 millions de Palestiniens. C'est la plus forte concentration au monde. Plus de 40 000 d'entre eux ont déjà dû fuir leur logement pour se réfugier dans des écoles ou chez des parents tout aussi démunis.
Merci Christophe Decroix, chef du service étranger d'RTL. Du côté de la diplomatie, c'est l'impasse. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas parvenu à une déclaration commune hier à l'issue de sa réunion. Israël et l'autorité palestinienne se renvoient la responsabilité de cette crise.
Et à 8h20, nous serons avec Daniel Saada, l'ambassadeur d'Israël en France, sur RTL. Il est 8h09, retour en France à présent. Et cette info, RTL, Olivier, dans l'enquête sur la mort de Samuel Paty.
Oui, ce professeur d'histoire assassiné en octobre dernier devant son lycée de Conflans-Sainte-Honorine. Si le terroriste Abdullah Kanzorov a agi seul, les investigations ont permis d'établir qu'il avait dans son entourage des suspects radicalisés avec qui il discutait très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et à qui surtout il aurait clairement indiqué son intention de passer à l'acte. C'est vous qui nous révélez cette information ce matin, Nicolas Burnand.
Oui, il s'agit d'une série de messages retrouvés dans son téléphone portable. Abdullah Kanzorov était en lien régulier avec deux jeunes Français ultra-radicalisés sur un groupe Snapchat. Le 10 octobre 2020, il leur communique d'abord l'identité du professeur d'histoire géo et l'adresse du collège. Nous sommes 6 jours avant l'attentat. Puis, le 16 octobre, à 15h38, il écrit « J'ai une épreuve à accomplir, faites des prières pour moi » en réclamant la shahada. Cette demande religieuse est faite lorsque les combattants vont mourir en martyr. Ces deux contacts acceptent. À 16h58, la photo d'une tête décapitée est postée. Samuel Paty vient d'être assassiné. En réponse, 3 émoticônes rieurs apparaissent. Identifiés par les enquêteurs, les deux jeunes Français sont interpellés en novembre dernier. L'un d'eux, âgé de 18 ans d'origine tchétchène qui rêve de faire le djihad, affirme devant les policiers ne pas avoir compris quand Zorov allait passer à l'acte. Il explique que son ami devait refaire son permis de conduire et nie les faits qui lui sont reprochés. Il est aujourd'hui mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes.
Information RTL, signé Nicolas Burnand. En bref, le meurtrier fugitif des Cévennes a passé sa première nuit en prison, mis en examen pour l'assassinat de son patron et de l'un de ses collègues mardi dernier. On découvre que pendant ses 3 jours de cavale, il s'est terré dans un trou à sanglier à 600 mètres seulement de chez lui. Il s'était rendu finalement vendredi, complètement affamé et déshydraté. Et puis l'adolescent de 14 ans qui a tué Marjorie, cette jeune femme de 17 ans vendredi à Ivry-sur-Seine, a lui aussi été incarcéré. Il affirme qu'il n'avait pas l'intention de la tuer et qu'il était sorti de chez lui avec un couteau pour se protéger. Le contexte étant celui de jeunes qui s'invectivent et qui se menacent sur les réseaux sociaux.
On termine avec le football et ce suspense total en tête de la Ligue 1.
Ah oui, Lille n'a fait que match nul, 0 partout face à Saint-Etienne, alors que le PSG a gagné 4-0 à Reims. Le PSG recolle à 1 point. Tout reste possible pour l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino.
Bien sûr qu'on doit y croire. Tout peut arriver en football. Mais pour ça, on doit d'abord faire notre travail en allant gagner à Brest, puis en espérant que Lille ne gagne pas face à Angers.
Et voilà, donc tout se jouera dimanche prochain. Dernière journée, ça n'était plus arrivé depuis 19 ans. Monaco a battu Rennes 2-1 et reste 1 point devant Lyon, qui l'a emporté 5-2 face à Nîmes, qui descend pour le coup en Ligue 2, c'est maintenant officiel. Nantes reste 18e et barragiste après sa victoire 4-0 face à Dijon. Bordeaux a battu Lens 3-0 et reste sous la menace également d'une relégation possible. Même chose pour Brest qui a fait match nul 0 partout contre Montpellier. Strasbourg, lui non plus, n'est pas sauvé malgré sa victoire contre Nice 2-0.
C'était le journal d'Olivier Bois. Merci Olivier, il est 8h13.
Jérôme Florin,
RTL Matin, 7h-9h30.
Alors, vous l'avez sans doute remarqué, hein, si vous avez fait réparer votre voiture récemment, fait changer un pare-choc, un rétroviseur, la facture a pris un petit coup de chaud. L'addition est de plus en plus élevée en raison de la flambée des prix des pièces détachées. Gros plan avec la brigade RTL. Christophe Bourroux, bonjour.
Bonjour.
Les prix ont augmenté de 3% au premier trimestre. Hein.
Oui, et ce qu'il faut souligner, c'est la durée de cette hausse des prix qui, mois après mois, année après année, continue de grimper. Plus 3% au premier trimestre, plus 6,5% en un an. Ajoutez à cela le coût de la main-d'œuvre, lui aussi en hausse constante, tout comme celui de la réparation qui a fait un bond de l'ordre de 8% en 5 ans. Bref, vraiment de quoi plomber notre facture.
Alors pourquoi une telle flambée des prix, Christophe ?
À cela deux raisons. D'abord, on pêche cher la technologie, notamment sur les SUV, avec des pièces particulièrement travaillées, comme l'éclairage et les phares à LED. Ainsi, changer une optique pour un éclairage peut vous coûter jusqu'à 1000 euros. Autre exemple, la plupart de nos voitures sont équipées de radars de recul installés dans le pare-choc arrière. Résultat, quand on l'abîme, on doit non seulement changer la pièce en plastique, mais aussi les capteurs, ce qui forcément alourdit l'addition.
Alors, l'autre explication, c'est que le marché est quasiment fermé à la concurrence.
En effet, en France, et c'est une particularité, les constructeurs ont un monopole sur la plupart des pièces, sur ce qu'on appelle les parties visibles du véhicule, comme les phares, les rétroviseurs et les éléments de carrosserie, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Autrement dit, si vous avez besoin d'un rétroviseur neuf pour votre voiture, votre garagiste va s'approvisionner directement auprès de Renault, Peugeot ou Citroën.
Et ça, c'est une exception européenne.
Oui, car dans les autres pays, le marché, lui, est ouvert à la concurrence. Si vous traversez la frontière, vous allez réaliser immédiatement des économies, style un pare-choc qui est vendu 300 euros en France. Il vaut 3 fois moins cher en Allemagne ou en Espagne. Ou si les professionnels estiment couvrir ce marché, à l'image de nos voisins européens, permettrait de faire baisser immédiatement les prix de 17%.
Alors, ouvrir le marché à la concurrence pour redonner du pouvoir d'achat aux automobilistes, on s'en souvient, c'était une promesse du gouvernement avec Édouard Philippe, qui l'avait évoqué d'ailleurs en pleine crise des Gilets jaunes. On en est où depuis ?
Alors, plusieurs tentatives parlementaires ont échoué, retoquées par le Conseil constitutionnel. Il y a un mois, un député de la majorité, Damien Pichereau, a déposé une proposition de loi en ce sens. L'idée est aussi de faire baisser les primes d'assurance, fortement impactées par le prix des pièces détachées. Et au final, ouvrir ce marché représenterait une économie globale de l'ordre de 415 millions d'euros par an pour les automobilistes, selon UFC Que Choisir.
Et que disent les constructeurs ?
Ils craignent que le marché se retrouve inondé de pièces produites à l'étranger en cas de libéralisation trop brutale, ce qui pourrait avoir des impacts sur l'emploi en France.
Brigade RTL, signé Christophe Bourou. Dans un court instant, il est 8h16, les fake news avec Jean-Mathieu Pernin.
RTL Matin, Jérôme Florin.
18, on regarde ce qui se passe du côté des fake news avec vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, non, les enquêtes sur les assistants parlementaires européens du Modem et de la France Insoumise n'ont pas été abandonnées.
Eh bien oui, ce sont des messages qui ont fleuri sur les réseaux sociaux immédiatement après la découverte hier matin de la une du journal du dimanche. L'hebdomadaire met en avant une photo de la chef du Rassemblement National et ce titre. L'enquête qui accuse Le Pen. Le JDD publie les résultats des investigations de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscale et apporterait donc la preuve d'un système de détournement des fonds européens au profit du RN par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires. Il y a quand même dedans 25 mises en examen, dont Marine Le Pen et son père. Aussitôt sur Twitter et Facebook, ça réagit, toujours le FN, rien sur le Modem, et les autres, 1-1-1, oui il y a 3-1 dans ce message. Et c'est vrai que ces soupçons ne concernent pas seulement les ex-FN, mais également le deuxième parti de la majorité, le Modem et la France Insoumise. La justice s'intéresse à ces cas depuis juin et juillet 2017. Et contrairement à ce qu'affirment certaines publications, la justice continue son travail sur ses formations politiques et ça prend du temps.
Mais d'ailleurs, concernant le Modem, Jean-Mathieu, il y a eu des mises en examen dans ce dossier.
Ah bah oui, puisque pour le parti centriste, les retentissements de cette affaire commencent au moment de sa consécration électorale. En fait, en juin 2017, François Bayrou soutient Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Il est nommé ministre de la Justice. Et le 21 juin 2017, il est obligé de démissionner, comme Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, nommées également au gouvernement. Les enquêteurs soupçonnent les dirigeants du Modem de détourner l'argent du Parlement européen pour des assistants parlementaires du Parlement européen à son profit. Le calendrier judiciaire s'est accéléré fin 2019 avec la mise en examen de plus d'une dizaine de responsables du Modem, dont François Bayrou et Marielle de Sarnez pour détournement de fonds publics. À ce jour, 15 cadres ou anciens cadres du parti font l'objet de poursuites dans ce dossier.
Et pour la France Insoumise, c'est plus lent.
Et oui, juillet 2017, une élue du RN dénonce à Bruxelles que le système de détournement des assistants parlementaires concernerait les élus de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Depuis, le leader insoumis attend et il se plaint, car depuis 4 ans, il n'a pas été entendu, explique le JDD. L'enquête avait pourtant commencé avec la très médiatique perquisition des locaux de la France Insoumise en octobre 2018. On s'en souvient,
La République, c'est moi.
Exactement, ouais. Vous connaissez vos classiques. Selon le journal Le Monde, un retard principalement dû au Covid et à l'organisation de la justice. Bref, un serpent de mer qui devrait repasser une tête en 2022.
Merci Jean-Mathieu Pernin, 8h20.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Jérôme.
Alors je sais pas quelle nuit vous avez passé, en tout cas ce matin vous abordez un sujet qui peut concerner tous les hommes et par ricochet leurs partenaires, le sujet de la panne sexuelle, et vous avez des solutions.
Oui, que l'homme qui n'a jamais connu de panne sexuelle me jette le premier comprimé bleu, si vous voyez ce que je veux dire. Si on se penche sur les enquêtes faites sur le sujet, on constate qu'après 40 ans, un homme sur 3 endure des troubles de l'érection. Et qu'après 70 ans, plus de 2/3 des hommes sont également concernés. À partir de là, où on fait évoluer sa vie sexuelle, où on prend les choses en main.
La panne sexuelle est-elle d'origine psychologique ou d'origine physique ?
Eh bien les deux. On va revenir sur les causes organiques et commencer par ce qui relève du mental. Dès lors que vous vous mettez la pression, que vous pensez à l'échec, vous alimentez une spirale qui, de fait, vous conduit à la panne. On est là dans la majorité des cas pour lesquels, bonne nouvelle, il existe des solutions. Vous en parlez à votre médecin, il vous prescrira la fameuse petite bleue dont je parlais à l'instant, puisqu'on n'a pas le droit de citer de marque. Mais il y a d'autres médicaments, il y a d'autres comprimés. Certains provoquent l'érection même si vous contemplez une tomate. D'autres ne fonctionnent qu'en présence d'une stimulation sexuelle. Mais tous donnent de bons résultats et surtout vous rassurent, si bien que vous êtes psychologiquement remis en selle et vous n'avez pas forcément besoin d'en reprendre à chaque fois.
C'est beau une tomate en même temps. Comment fonctionnent ces comprimés, Michel ?
Ce sont des vasodilatateurs qui facilitent l'afflux de sang dans la verge, nécessaire bien sûr pour une bonne érection.
Et alors comment fonctionne-t-il aussi quand la panne sexuelle est d'origine organique ?
Alors il fonctionne, oui et non. Sauf si l'artère de la verge est bouchée, dans ce cas le sang ne passe pas. Mais l'idéal quand le problème est d'origine organique, c'est d'abord de revoir son hygiène de vie. Les ennemis de l'érection, on les connaît. L'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids abdominal, l'excès de cholestérol, l'hypertension, toutes choses que l'on peut combattre en simplement le décidant. Alors c'est tout bête, mais se gaver de sucre et de mauvais gras fait augmenter votre tour de taille, ce qui a pour effet de perturber la relaxation musculaire au niveau de la verge également et par ricochet l'afflux de sang. De même, trop de graisse agit sur votre testostérone, une hormone impliquée dans le désir et l'érection.
Alors qu'en est-il des injections au niveau de la verge, voire de l'implant pénien ?
Alors le traitement à base de micropiqûres peut vous être prescrit quand les comprimés sont inefficaces. On le retrouve chez les patients dont certains nerfs érectiles ont été touchés à la suite d'une ablation de la prostate ou à cause d'un diabète. Il faut une prescription. Votre médecin généraliste ou le spécialiste que vous avez consulté peut s'en charger. Je parle de la prescription, parce que pour la piqûre, il vous montrera la première fois et ensuite, c'est vous qui piquez. Quant à l'implant pénien, il s'adresse plutôt à des patients qui sont par ailleurs éprouvés par un diabète lourd, un cancer, un accident vasculaire cérébral, une sclérose en plaques ou une maladie cardiovasculaire.
Ça se présente comment ?
Une prothèse formée de 2 cylindres que l'on place à l'intérieur des corps caverneux de la verge, enfin c'est le chirurgien qui les place. Vous disposez d'un réservoir inséré dans l'abdomen et d'une sorte de pompe qui est cachée dans l'enveloppe des testicules et qui contient du sérum physiologique qui va remplir les cylindres et faciliter l'érection. Alors, ça fait un peu usine à gaz comme description, mais je vous rassure, c'est discret, pas douloureux et ça fonctionne.
Merci beaucoup Michel. À demain, on sait tout maintenant. 8h24, après la pause, l'escalade jusqu'où entre Israéliens et Palestiniens, on en parle avec l'ambassadeur d'Israël en France, Daniel Saada.
RTL Matin. Jérôme Florin.
Il est 8h27 sur RTL. Ça fait une semaine maintenant qu'on est entré dans un nouveau cycle de violence entre Israéliens et Palestiniens. Le bilan est de plus de 200 morts, essentiellement du côté palestinien d'ailleurs. Bonjour Daniel Saada.
Bonjour.
Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France. L'armée israélienne a encore mené cette nuit une intense série de frappes sur Gaza après une journée qui aura été la plus sanglante depuis une semaine. On va aller jusqu'où comme ça ?
Nous avons été agressés il y a une semaine par le Hamas qui a lancé et qui lance près de 3000 missiles sur les villes israéliennes. Je rappelle que le Hamas n'a jamais cherché, pas un seul de ces missiles n'a essayé de viser une cible militaire israélienne. Ce ne sont que des civils qui sont visés du côté israélien. S'il n'y a pas eu des centaines de morts comme il aurait dû y avoir du côté israélien, c'est parce que nous avons d'abord ce bouclier antimissile et parce que nous avons pris énormément de précautions. Donc il faut absolument que nous puissions trouver la solution pour désarmer le Hamas et pour l'empêcher de continuer ce cycle de violence infernale.
Alors comment ? Quelle solution ? Vous avez entendu le porte-parole du gouvernement tout à l'heure sur RTL, Gabriel Attal, il demande un cessez-le-feu au plus vite. Comment on fait ?
Nous y travaillons, mais nous devons absolument empêcher le Hamas de continuer de menacer nos citoyens. C'est une situation, je crois, que tous les pays au monde peuvent comprendre. Le Hamas est une organisation islamiste et djihadiste qui est à nos portes et qui, depuis 15 ans, depuis le jour où ils ont pris la bande de Gaza, ont investi des centaines de millions de dollars pour cette infrastructure de terreur.
Concrètement, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il y a des liens
entre vous et le Hamas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des moyens de communication?
Vous savez très bien que dans les précédents conflits, nous avons vu le rôle que certains pays de la région jouaient et qu'ils continueront de jouer dans cette flambée actuelle. Mais la question fondamentale est d'essayer de porter le coup le plus fatal à l'infrastructure militaire du Hamas. C'est l'objectif que nous avons et que nous allons continuer jusqu'à ce que nous puissions arriver à une solution.
Vous parlez donc toujours de frappes ciblées, alors qu'il y a eu 58 enfants tués côté palestinien.
Mais vous savez qu'il y a tous les jours des centaines et des milliers d'enfants israéliens qui sont tués virtuellement, parce que ces missiles, c'est quelques centaines de kilos d'explosifs qui tombent sur nos villes, sur nos écoles. Alors oui, nous les protégeons, nous faisons exactement le contraire. Le Hamas expose ses enfants, nous les protégeons. Alors ne me demandez pas de nous excuser de ne pas avoir de mort du côté israélien. Nous faisons tout pour protéger notre population. Le Hamas fait tout pour les exposer.
Est-ce que vous envisagez une opération terrestre?
Écoutez, pour l'instant, nous faisons tout pour éviter cela, parce que nous savons le prix qui sera, que nous devrons payer dans ce type d'opération. Nous trouvons les solutions nécessaires au niveau opérationnel pour porter les coûts nécessaires aux infrastructures logistiques, opérationnelles et militaires du Hamas.
Donc vous ne l'excluez pas à l'heure où l'on parle?
Encore une fois, je répète, nous prenons toutes les mesures appropriées pour trouver la solution pour porter le coup fatal au Hamas.
Daniel Saada, beaucoup de questions après le bombardement samedi par Israël d'un immeuble de 13 étages dans la bande de Gaza, abritant la chaîne Al Jazeera, les bureaux de l'agence Associated Press. Pourquoi avoir ciblé cet immeuble?
C'est un piège, si vous me le permettez, un piège grossier que le Hamas tend à la presse internationale. Parce que c'est en effet un immeuble qui a abrité quelques médias internationaux, mais c'est un immeuble qui a abrité également, c'est la politique de ce qu'on appelle le bouclier humain, ici on devrait dire le bouclier médiatique, puisque le Hamas a installé
des équipements. Il y avait des équipements militaires.
Seulement, il y avait une unité opérationnelle technologique du Hamas qui œuvrait dans cette tour, mais il y avait également, je vous invite à chercher sur les réseaux sociaux, il y a eu à plusieurs reprises dans les dernières années des tirs de missiles vers Israël depuis le toit de cet immeuble. Il y a d'ailleurs des images où l'on voit une journaliste de Al Jazeera paniquer pendant une émission en direct. On la voit se lever et quitter le studio parce qu'on était en train de tirer des missiles.
Est-ce que ces médias étaient au courant?
Mais évidemment, mais c'est le piège.
Donc il ne s'agissait pas de les réduire au silence, c'est ce que dit Al Jazeera.
Vous savez, aujourd'hui, n'importe quel individu qui a un smartphone peut filmer et transmettre au monde entier les images de ce qui se passe autour de lui. Donc imaginez que nous puissions essayer de faire taire ce qui se passe à Gaza parce que nous bombardons un immeuble où il y a une rédaction, c'est vraiment ridicule.
Est-ce qu'Israël n'est pas en train de perdre la bataille de l'opinion aujourd'hui? Parce que militairement, vous allez gagner.
Je crois fondamentalement que l'opinion comprend que nous avons d'abord affaire à une organisation terroriste, que nous devons nous battre contre le djihadisme, contre l'islamisme. Nous devons nous battre contre des gens qui sanctifient la mort. Nous devons nous battre contre ceux qui ne cherchent qu'à tuer le plus de civils. Vous savez, la charte du Hamas, lisez-la. C'est la seule qualité que je peux reconnaître au Hamas.
Vous dites que l'opinion internationale comprend ce qui se passe en ce moment.
Moi, j'en suis convaincu. La charte du Hamas, c'est tuer le plus de juifs possible. C'est ce qu'ils essayent de faire.
Vous aviez pourtant remporté une sorte de bataille de la communication, si je puis dire, dans un tout autre domaine ces derniers temps, la bataille de la vaccination. Là, aujourd'hui, vous êtes confronté à ça.
Mais d'abord, cette bataille me permet de rappeler que pendant cette campagne de vaccination, nous avions permis de montrer cette coexistence extraordinaire qu'il y a entre Arabes et Juifs en Israël, puisque pendant cette période de vaccination...
Qui est un peu mise à mal aujourd'hui.
Oui, qui est malmenée, mais qui est fondamentalement présente dans ma société, ce qui me permet de rester très optimiste. Vous savez, les premiers Arabes du Proche-Orient qui ont été vaccinés, ce sont les Arabes israéliens.
Il n'y a pas de risque de guerre civile aujourd'hui? On parle toujours de spectre de guerre civile, mais oui, là, ce qui se passe aujourd'hui est assez nouveau tout de même.
C'est nouveau. Mais fondamentalement, le succès de la coexistence, qui était un véritable défi en 1948, au moment où nous avons créé notre État, eh bien, cette réalité profondément ancrée dans les valeurs de la société israélienne ne sera pas remise en cause.
Est-ce que la situation ne sert pas Benjamin Netanyahou, qui était un petit peu isolé politiquement, sur le plan intérieur?
Vous savez, le Hamas est arrivé au pouvoir en 2005, c'était pas Monsieur Netanyahou qui était au pouvoir. Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que plusieurs premiers ministres israéliens se sont retrouvés confrontés exactement à la même situation, et ils agissent exactement de la même manière. Je veux dire par là que le problème n'est pas du côté israélien, il est du côté palestinien. Il est temps que les Palestiniens cessent cette politique de surenchère.
À vous entendre ce matin, Daniel Saada, il n'y a pas d'issue.
Une issue, il faut que les Palestiniens tournent le dos à la violence. Il faut que les Palestiniens cessent cet irrédentisme. ils cessent de s'accrocher à un mouvement djihadiste qui ne veut que leur perte.
Merci beaucoup Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir été notre invité ce matin en direct sur RTL. Il est 8h34. Dans un instant, Louis Baudin pour la météo.
Dans 30 minutes, laissez-vous tenter sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. Envole-moi, quel joli message à deux jours de la réouverture de nos salles de cinéma. Envole-moi, c'est le titre du nouveau film de Christophe Baratier. Il sort mercredi, justement. Envole-moi, l'histoire d'un grand chirurgien décidant de remettre son fils sur le droit chemin en l'obligeant à s'occuper d'un enfant malade. Envole-moi va vous toucher, vous faire rire. On y retrouve Gérard Lanvin et Victor Belmondo en compagnie de Christophe Baratier. Ils seront nos invités à 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin. Pour Louis Baudin, on n'en voit pas le bout ?
Non, on n'en voit pas
non,
le bout.
Non, toujours pas.
On voit pas le bout. C'est même impressionnant la vitesse à laquelle circulent les nuages. Je vois les animations. Ça vient de l'ouest et ça nous quitte par l'est et ça défile et ça défile. Ça sera le cas aujourd'hui quasiment partout. Demain, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que dans le sud, quand même, hein, de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée, on sent qu'il y a un petit mieux. Hein. On va sentir que c'est un petit peu plus ensoleillé. Mais bon, je fais dans la nuance hein, parce qu'il restera encore des passages nuageux. Ça va pas être l'embellie d'un seul coup. Puis côté température, ça ne bouge pas demain. Sauf près de la Méditerranée où là quand même on atteindra parfois les 25 degrés du côté de la Côte d'Azur ou encore sur la Corse. Mercredi, alors le jour des terrasses,
bah oui.
C'est ce qu'on peut réserver.
Alors vous aviez dit, il y a peut-être une possibilité qu'il fasse beau.
Dans l'ouest,
un
Bretagne, Normandie, du Val-de-Loire jusqu'aux Pyrénées, de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes du Sud et la Méditerranée, oui on peut réserver, là on aura un temps sec et ensoleillé. Ailleurs, c'est un peu plus aléatoire. J'espère quand même que durant cette journée, on pourra profiter de quelques petites périodes d'accalmie. Ces périodes d'accalmie seront un petit peu plus belles jeudi. C'est-à-dire jeudi de la semaine, c'est peut-être la journée la plus agréable. Donc réservez plutôt jeudi dans le nord et le nord-est. On aura là aussi un petit répit. Les températures, à peine de saison. Hein, on sera entre 17 et 20 degrés du nord au sud. Et puis pour la fin de semaine, c'est reparti. Vendredi, samedi, dimanche, de nouveau défilé de perturbations, d'averses, avec quelques éclaircies par moment, toujours de la fraîcheur. Du vent notamment près de la Méditerranée avec un peu de soleil. Non, la fin, allez, je vais rester sur un petit point positif, peut-être après Pentecôte, donc en milieu de semaine prochaine, il y a les premiers indices peut-être du retour de l'anticyclone.
Enfin, ça fait quand même loin. Hein.
Mais ça fait encore loin, voilà. Donc bon. Ça veut dire que c'est pas fiable.
Merci Louis, 8h38.
RTL. Vous êtes comme ça.
Alors ce matin, on va prendre le large. Je vous emmène avec Julien Fautra à Ouessant, la petite île du Finistère aux 850 habitants. Bonjour Julien.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Comment Ouessant parvient à garder des habitants sur l'île et à en attirer d'autres? De jeunes agriculteurs, Marie et Thomas, s'y sont installés. Ce sont des éleveurs de vaches laitières.
Oui, à l'heure de la traite, elles ont déjà oublié les 1200 km depuis la Drôme, le trajet en bateau, la marée. 12 vaches paisibles, la vue sur la mer est sûrement un bon antidote au stress.
Là on est en train de traire et donc le truc c'est d'arriver à produire quelque chose à Ouessant qui profite en priorité aux Ouessantins. Celle-là elle est bientôt finie là, je vais la décrocher et puis sinon elle mange de l'herbe avec vue sur mer donc c'est sympa quand même de bosser dans des conditions comme ça.
Marie et Thomas, ils ont découvert un jour que la mairie d'Ouessant avait lancé un appel d'offres pour qu'à nouveau des agriculteurs exercent sur l'île. Un changement de vie, toute la famille s'est installée sur cette petite terre dont on dit souvent qu'elle est la dernière avant l'Amérique.
Je regarde la météo pour partir faucher pour faire les foins dans la Drôme là, et je vois un encart, mairie d'Ouessant cherche éleveur laitier. J'envoie le truc à Marie, elle me dit non mais m'envoie pas ça, ça m'a toujours fait rêver la Bretagne et tout. Je dis bah tu sais quoi, on répond à l'appel d'offres, au moins on sera pas déçus. Et puis on a été pris. On est arrivé avec les vaches à l'automne et elles ont fait leur veau là au mois de février-mars.
À 6h on propose le lait à la vente, le lait cru. Et puis en même temps, j'en profite pour proposer mes yaourts et puis de temps en temps un peu de fromage et puis le beurre qui est en commande. C'est le lait qui est trait ce soir, donc il est encore chaud.
Le lait se retrouve directement
dans les bouteilles.
Dans les bouteilles.
Des gens. J'ai même pas mes contenants, c'est leur contenant. Donc ça, c'est le top.
Loin du continent, de la foule, du bruit et de la fureur, la traite est en cours dans cette stabulation mobile. Les Ouessantins viennent y chercher du lait encore tout chaud.
C'est du vrai lait en fait, c'est-à-dire que ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais c'est du vrai lait qui n'est pas transformé, qui est crémeux, qui est encore tout chaud. Enfin, moi, c'est le lait de mon enfance. Quoi.
À Ouessant, ici, avant, l'île vivait en autarcie. Hein.
Et là, je vais faire un phare au four avec du beurre. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.
Comment faire un bon phare?
Moi, j'aime pas quand il soit dur, donc quand c'est presque comme une pâte à crêpes, je fais fondre du beurre, je mets dedans.
Le beurre qui vient d'ici aussi?
Le beurre, là, aussi.
Alors que ce n'était qu'un lointain souvenir pour ces Ouessantines pur beurre après 10 ans sans vaches sur l'île.
Alors attirer des agriculteurs, c'est bien, hein, Julien. Garder ces jeunes, c'est aussi un objectif de la mairie.
Exactement, je vous propose de rencontrer cette fois Charlène. Elle est en train de protéger un agneau sous son manteau.
Parce qu'il vient de naître et qu'il vient d'être abandonné du coup par sa maman.
C'est la période de l'agnelage, des naissances.
Je le réchauffe un peu et puis après il va aller au chaud dans une petite crèche avec de la paille, quoi.
Charlène a 26 ans, originaire d'ici. Elle a fait son lycée agricole sur le continent. Elle vient juste, tout juste, de s'installer, il y a un mois et demi, un élevage de moutons avec une soixantaine de mères et bientôt son fromage et son yaourt made in Ouessant.
C'était évident en fait que je reste ici et que je crée cette exploitation. Après c'est sûr que Ouessant c'était pas un choix, c'était enfin une obligation pour moi d'être ici quoi. Ouessant ça nous prend entièrement quoi. Donc une fois qu'on est installé, on n'a plus envie d'y repartir quoi. C'est on sent qu'il y a un nouveau dynamisme sur l'île qui fait qu'on rentre dans une nouvelle ère un peu quoi.
La mairie construira un bâtiment de stockage et de production, met à disposition les terrains. À l'origine, un appel à projet pour faire du bio, du circuit court et un troupeau à la dimension de l'île. Le maire de Ouessant, Denis Paluel.
On s'est dit qu'il fallait restaurer les paysages, mais en même temps redonner de l'activité. Donc c'est bien une logique d'emploi sur place, de production sur place et de consommation sur place.
Le projet de redynamiser l'île a commencé il y a plusieurs années avec la création d'une unité de transformation des algues dans des locaux communaux. Une ancienne caserne rénovée à cette occasion. 6 emplois créés pour valoriser déjà une ressource locale.
Vous êtes comme ça, signé Julien Fautra sur l'île d'Ouessant aujourd'hui. Merci beaucoup Julien. Il est 8h42 sur RTL.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Et ce matin, on vous retrouve donc Isabelle Choquet. On va parler de la fin de vie. La fin de vie, précisément, de Guy Bedos, raconté par son fils.
Oui, dans l'Obs, cette semaine, Nicolas Bedos livre un récit glaçant des derniers jours de son père. Un plaidoyer pour l'euthanasie écrit à la première personne. Je vous en livre les principaux extraits tels quels, parce que le réécrire, ce serait un peu une trahison, puis ce serait bien prétentieux aussi. Ce n'est pas le chagrin qu'il s'agit de livrer ici, écrit Nicolas Bedos, c'est la question du choix. Avril 2020. Il a du mal à respirer. Il ne mange plus depuis des semaines. La maladie, le confinement, la confusion. La nuit, ne sachant plus l'heure qu'il est, il se lève, voudrait sortir, oublie qu'il est trop faible, tombe, se cogne, saigne. Tant bien que mal, ma mère le soulève, le rassure, le borde. Elle déteste le ramasser, elle déteste le voir détester qu'elle le ramasse. Des mois que ça dure, la question de l'hospitalisation s'est bien évidemment posée, mais on nous a prévenu qu'en pleine épidémie, l'envoyer à l'hosto, c'est l'envoyer au diable. Possiblement ne plus le voir, ne plus lui parler, ne plus pouvoir glaner ses rares sursauts de lucidité. Il est donc décidé que notre père mourra dans sa chambre, pas loin de nous, près de sa femme et de ses chats. Quelques semaines de jeûne plus tard, il ne sort plus de son lit. Ses mains sont devenues si fines qu'on a peur de les briser sous le poids des baisers. Un soir, je lui demande ce qu'il en pense, ce qu'il veut. Il me répond par un silence, balancé droit dans les yeux. D'aussi loin qu'il me revienne, mon père n'a cessé de répéter qu'il lui serait insupportable de mourir diminué, d'être un poids pour les autres, une offense à lui-même. Il s'est lié d'amitié avec le docteur T, lui a fait promettre devant nous que le temps venu, il se chargerait de lui faire traverser la frontière. Il le surnomme « mon médecin assassin ». Et puis les années passent, son esprit s'affaiblit, sa mémoire flanche. Une maladie cousine d'Alzheimer a soigneusement foutu le bordel. Nous nous sommes mis d'accord, ma mère, ma sœur et moi, il est temps. Largement, il suffit de le regarder. Ma mère passe des coups de fil, des amis se rencardent, nous filent des numéros. Étrange impression de se refiler des contacts de dealers à la veille d'une fête macabre. L'un d'eux, un médecin, me mail d'une ordonnance de Rivotril, un antiépileptique couramment utilisé, me dit-il, dans ces cas-là. Ça se pratique tous les jours, hein. Vous direz au pharmacien que vous souffrez d'insomnie chronique. Ce n'est pas faux. Les questions se bousculent. Et s'il y a une enquête ? Il n'y en aura pas. Croyez-moi, votre père est en fin de vie, il y a une tolérance tacite. Par contre, pensez bien à vider entièrement le flacon dans sa bouche. Je me revois sur mon scooter, me rendant à la pharmacie pour acheter la mort de l'homme que j'aime le plus au monde. De retour à la maison, ma mère m'annonce que le docteur T s'est enfin manifesté. Après l'avoir examiné, il semble bien emmerdé. Il convient parfaitement de l'issue inexorable et désagréable de la situation, mais il aurait préféré, pour intervenir, que mon père soit dans un état plus somnolent, davantage coupé du monde. Il repassera demain. Je tripote nerveusement le flacon de Rivotril dans la poche de mon manteau. La nuit suivante sera la dernière, longue, bouleversante. Le lendemain, le flacon est plein. Mon père n'en a pas eu besoin pour offrir à son médecin l'état somnolent apparemment nécessaire à une intervention qui a eu lieu vers 17h. Il aura donc fallu qu'il baisse entièrement le rideau et ne pèse plus que quelques kilos pour que la société daigne choisir le jour et l'heure. Mon père aurait voulu mourir autrement. Témoignage coup de poing et grand dossier sur l'euthanasie à lire dans l'Obs.
Et donc c'était les mots de Nicolas Bedos dans votre voix. Merci beaucoup pour ce témoignage coup de poing à lire dans l'Obs. Donc merci Isabelle Choquet.
À demain.
À demain, il est 8h45. Dans un instant, bah tiens, on va se changer les idées. On a besoin de se remonter le moral avec vous, Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour, il arrive. Bonjour. Ah mais non, mais il est là, il entre dans le studio. Mais oui, mais il est là, c'est bonjour, formidable. Bonjour. Bon allez, à tout de suite, à toute l'équipe.
À tout de suite. Ouais.
Florin, RTL Matin.
Laurent et Jade sont donc avec nous ce matin en studio. Bonjour, il est 8h48.
Bonjour Jérôme.
Oui.
Ça va, Jérôme? Jérôme,
oui, ça va très bien. Bon. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé là?
Alors, c'est donc cette semaine que va débuter le calendrier des réouvertures. Pour mieux comprendre cet agenda, nous sommes avec le Premier ministre Jean Castex. Ah oui, c'est bien lui.
Bonjour, mademoiselle Jade.
Oui.
Alors, ça boum? Est-ce que, comme moi, vous trouvez ça batte? Ces réouvertures. J'imagine que vous êtes avide de guincher et de retrouver les surpattes.
Tout à fait, monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous expliquer ce calendrier des réouvertures qui semble quand même très compliqué?
Mais non, je vous le dis en responsabilité. En responsabilité, c'est très simple. J'explique. Compte tenu de l'enthousiasme à propos de la réouverture des terrasses des Troquets,
oui.
Je conseille aux Français de s'y installer dès aujourd'hui pour être sûr d'avoir une place mercredi. S'il n'y a pas de chaise, venez avec votre pliant.
Oui.
Et comme le bistrotier n'a toujours pas le droit de vous servir un café, apportez votre thermos.
D'accord, du coup on fait une terrasse avant la terrasse.
Ne compliquez pas tout. En ce qui concerne la réouverture des cinémas, la jauge sera pour commencer de 15%. Donc, pour la première fois depuis longtemps, les films français vont faire le plein.
Ah ben c'est super.
Quant au parc d'attractions, je vous le dis en responsabilité. En responsabilité. Nos chères petites têtes blondes peuvent se réjouir. Euro Disney va rouvrir.
Il y a longtemps.
En revanche, les attractions, elles, restent fermées.
Ça sert à quoi, alors?
Ne compliquez pas tout, mademoiselle Jade. Et soyez plutôt heureuse qu'à la montagne, les remontées mécaniques puissent progressivement, je m'y engage, rouvrir à leur tour.
Super.
Avec un peu de chance. Et grâce à l'action exceptionnelle du gouvernement, vous pourrez skier au mois de juillet.
Ouais. Ben moi, comme j'imagine beaucoup de Français, je comptais plutôt aller à la plage cet été.
Nous vous donnerons donc en responsabilité les mesures sanitaires pour la bronzette et les bains de mer à la Noël.
Ah d'accord. Jean-Luc Mélenchon, de plus en plus offensif avec...
Oh, quel temps de merde. Mais qu'est-ce que tu veux, petite tête de journaliste à la solde du grand capital luxembourgeois?
Oui, ben bonjour aussi, monsieur Mélenchon.
Bonjour, monsieur Mélenchon.
Oui.
C'est quoi ton problème, hein? C'est quoi? Tu veux qu'on se batte?
Ça va pas, non, pas du tout. Je voulais juste vous dire.
Allez, vas-y. Vomitaine du peuple sur moi. Parce que le peuple, c'est moi! T'as compris ou faut que je parle plus fort?
Ah, surtout pas, non. Je voulais revenir sur vos mots très durs contre le Parti Socialiste.
Qu'est-ce que tu vas inventer encore? J'ai jamais dit du mal de mes camarades socialistes, ces abrutis.
Ah, oh, bah non, vous avez dit qu'ils n'existaient plus. C'est pas très sympathique.
C'est pas très sympathique. Tu te crois où? Au pays des bisounours?
Quant aux écologistes, vous avez dit qu'ils avaient un avenir aussi longtemps qu'on ne les voyait pas à l'œuvre.
Et alors? Je l'ai bouffé en 2022, les verts. Ça me fera des légumes.
Vous en êtes pris aussi au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, lui disant « T'es président de rien du tout, je cite, garde tes remarques pour toi ». Vous êtes quand même très énervé.
Mais je suis pas énervé, putain, quel temps de merde, je suis en forme. Depuis que je me suis fait vacciner, j'ai une pêche d'enfer. Allez, lance-moi François Langlais, vas-y, je vais le déchiqueter.
Bonjour madame.
Ah bah non, c'est François Ruffin.
C'est moi qui ai fait la piqûre à monsieur Mélenchon. J'ai acheté la dose pendant notre voyage en Amérique du Sud au bar à Kinshasa.
Ah, d'accord.
Ah mais à tous les coups, il m'a jeté de la tequila, ce neuneu.
Ah, faut pas vous fâcher, monsieur Mélenchon. Je reviens de l'Institut Pasteur, je vous ai pris un vaccin contre la rage. Bon, regardez, madame Jade, il remue la queue, il a l'air content.
Mais qu'il est con.
La semaine dernière, pour la première fois depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le groupe Modem à l'Assemblée s'est opposé à un vote de la majorité présidentielle. Je reçois le président du Modem. Bonjour François Bayrou.
Bonjour, mademoiselle Jade. Mm-hmm. Bonjour, monsieur Florin. Oui. Et bonjour, Lannick à Emmanuel. Ah. Mm-hmm. Bisque, bisque, rage et nananananer.
Ouh là là, c'est donc sérieux cette crise de nerfs, vous aussi au modem. La presse parle d'une crise de couple entre votre parti et le parti du président Macron.
Absolument. Mm. Cette fois, Emmanuel est allé trop loin. Et comme on le dit très vulgairement, il n'a pas marqué, il n'y a pas marqué la poste.
Ah, il n'y a pas, oui.
Il n'y a pas marqué la poste. C'est pourquoi j'ai sorti mon arme secrète contre le gouvernement.
Ah, pour une fois, ça a l'air intéressant. De quelle arme secrète s'agit-il ?
Accrochez-vous. Il s'agit de Philippe Latombe.
Oui.
Qui, comme son nom l'indique, est une arme fatale.
Philippe Latombe, député MoDem de Vendée.
C'est un de mes agents dormants à l'Assemblée,
oui.
Où il dort beaucoup. Et la semaine dernière, je l'ai réveillé en début de soirée.
Et
tout le groupe MoDem, entièrement, a voté contre la sortie de l'état d'urgence sanitaire le 31 octobre au profit d'une sortie le 30 septembre.
Ouais, finalement, c'est pas si passionnant que ça, votre histoire. Oui.
C'est un coup de semonce terrible pour le président Emmanuel Macron et un message politique fort.
Ouais, ouais, ouais. Quel est ce message ?
Le message, c'est que les pigeons du MoDem en ont marre de se faire plumer et qu'ils veulent du grain à moudre.
D'accord.
D'ailleurs, ce matin, avez-vous retenu sur cette antenne l'information principale ?
Ah ben, le conflit israélo-palestinien, les 20 millions de primo-vaccinés peut-être ?
Pas du tout, c'est beaucoup plus fort et plus novateur.
Oui.
C'est mon appel à faire des enfants.
Ah d'accord. Ah oui, c'est et véridique. Du coup, oui, c'est vrai. C'est vrai. Quel est votre plan, commissaire ?
Un plan cul.
Ah d'accord.
Bon, c'est bon. En trois points. Copuler.
Oui.
Niquer, forniquer, à couilles rabattues.
D'accord. Ben c'est frais. Dans notre nouvelle Provence aussi, on se prépare au déconfinement et à une reprise progressive de la vie culturelle. Retrouvons la garrigue éternelle de Pagnol et le vallon des Darmanins grâce à notre saga provençale Macron des Sources avec Daniel Auteuil et Yves Montand.
Papé, papé! Ça y est, tu as vu, les terrasses vont réouvrir au Café des Tilleuls.
Les terrasses, tu as dit? Mais tu veux que je te dise qui est-ce qui va aller en terrasse? C'est les citadins. Depuis que notre maire écologiste, le Bossu, il a ouvert ses écogites au hameau des Pompili. Les touristes débarquent chez nous comme des mouches dans les toilettes sèches que le Bossu, il a fait installer sur la place Frédéric Mistral.
Mais papé, tu n'es pas au courant? La place Frédéric Mistral, le Bossu, il l'a rebaptisé Esplanade Greta Thunberg.
Eh bien moi, je continuerai à l'appeler Frédéric Mistral, si ça chante notre place. Mais les touristes, Golin, laissez-les donc se contaminer entre eux, à boire du rosé bio en terrasse. Nous, on continuera à jouer à la belote clandestine, chez Pierre-Antonin Chalençon, le cousin de l'inverti exubérant parisien, avec Picoboufig, le percepteur noigne. On est couverts.
Mais quand même, papé, grâce au déconfinement, on va retourner voir du spectacle vivant.
Du spectacle subventionné, tu veux dire. Tu as vu le programme que le Bossu nous a concocté avec son adjoint à la culture, l'Anselme Lang, hein? Ça se voit qu'il est abonné à Télérama, celui-là. Des lascars en survêtement qui tournent sur la tête, des acteurs qui traînent les pieds, des slameuses en sarouel. Mais même avec 70% de spectateurs en moins, ils s'en sortent quand même. Et pardi, ils ont l'habitude de jouer tout seuls, dans des salles vides, avec l'argent du contribuable.
Mais alors, papé, tu regrettes le temps du confinement ?
Ah, tu m'as compris, Galinette. Je dis pas qu'il faut qu'on soit encore tous malades, mais il faut quand même les empêcher de nuire à la mairie. Tiens, tu vas aller voir le Bossu, et après tu vas dire que tu es positif comme ça, il sera qu'à contact, et il pourra pas sortir de chez lui. Et dans 7 jours, c'est moi qui irai. Et ainsi de suite, on va lui faire passer l'été à l'ombre à ce fada.
Mais Macron, il a dit que la crise était finie, grâce à lui, et qu'on pouvait tous sortir de chez nous. Et moi, je l'aime Macron. Je t'aime Macron. Je t'aime comme c'est pas permis. Je t'aime Macron, je t'aime.
Oh là là, bonjour Dominique Strauss-Kahn.
Je m'étonne que vous n'ayez pas soufflé sur ma bougie.
Quoi ?
ma grosse bougie.
Non, mais ça va pas. Mais de quoi parlez-vous ?
De l'anniversaire. De l'anniversaire.
Oui.
Il y a 10 ans, j'étais arrêté au Sofitel. On me faisait juter, chuter.
Oui, bah, je suis pas sûr que ça mérite une célébration, moi.
Alors pourquoi ne pas fêter cet anniversaire ? Un piège, peut-être. Un gâteau, nous verrons.
Merci beaucoup, Laurent Gérard. À demain, Laurent Gérard et Jade et toute l'équipe, sous le regard de Gérard Lanvin.
À demain.
Bonjour, que je salue, qui viendra dans Laissez-vous tenter nous parler de son nouveau film Envole-moi avec Christophe Baratier et Victor Belmondo. Dans un instant, on parle de piment d'Espelette avec Cyril Lignac.
T'avais pimenté.
Ah, ouais, bah, pimenté. Allez, à tout de suite.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors, nouvelle question d'auditeur ce matin. Vous conseillez souvent de mettre du piment d'Espelette, mais on doit souvent en acheter plus que de besoin et il s'altère très vite. Alors, comment le conserver ? Dites-nous tout, Cyril.
Alors déjà, ça me fait plaisir qu'on utilise le piment d'Espelette parce que souvent, on utilise le poivre. Alors qu'on a ce piment qui est du Pays Basque, donc 100% français, hyper bon, hyper parfumé, piquant à la fois. Et alors du coup, la bonne astuce, c'est que il faut toujours les garder à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc en fait, on achète, on les met dans une boîte opaque qui va permettre de conserver le piment d'Espelette. Et on en met dans un petit pot. Moi, j'en ai dans un petit pot à la maison à côté du sel. Et je me sers de celui-là quotidiennement. Et l'autre, je le conserve tranquillement au fond de mon placard. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit dans un endroit sec. Et là, on conserve toutes les saveurs et les effluves du piment d'Espelette. Alors, on peut l'utiliser pour faire, par exemple, du foie gras. Quand on coupe une tranche de foie gras, on met un petit peu de piment d'Espelette dessus. Ça va nous donner des saveurs et un peu de puissance. Et j'utilise toujours le piment d'Espelette pour assaisonner les poissons. Parce que ça donne un côté un peu poivron, un peu piquant, sur une saveur très légère, telle que le poisson, avec un petit peu d'huile d'olive. Et pour la folie, on peut faire une mousse au chocolat.
Non.
Et parsemer d'un peu de piment d'Espelette, avec quelques petites framboises. Et là, ça nous donne le chocolat, la puissance, le Pays Basque et le soleil. Moi, je suis fan.
Ah bah, c'est parfait. On retrouve vos conseils sur l'application RTL, évidemment. Merci beaucoup, Cyril.
Merci.
À demain.
Il est
9h02 sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
L'essentiel de l'info avec vous, Olivier Bois.
Et d'abord, l'optimisme de Sanofi sur son vaccin distancé par les autres laboratoires. Sanofi présente les résultats intermédiaires de sa phase 2. Son sérum produit autant d'anticorps que pour un patient qui a guéri de la maladie. Sanofi espère être opérationnel d'ici la fin de l'année. L'armée israélienne a mené à nouveau la nuit dernière des raids dans la bande de Gaza. 42 Palestiniens sont morts hier. C'est le bilan le plus lourd depuis la reprise des affrontements. Le meurtrier fugitif des Cévennes a passé sa première nuit en prison, mis en examen pour l'assassinat de son patron et de l'un de ses collègues. Le procureur de la République de Nîmes, Éric Morel, décrit un homme habité par un sentiment de persécution. Et puis le football, tout se jouera donc au cours de la dernière journée dimanche prochain. Lille n'a fait que match nul 0 partout face à Saint-Étienne, alors que le PSG a gagné 4-0 contre Reims. Monaco a battu Rennes 2-1 et reste un point devant Lyon, qui l'a emporté 5-2 face à Nîmes. Dans le bas du classement, Reims, Nantes, Bordeaux, Brest, Strasbourg et Lorient peuvent encore descendre en Ligue 2.
Merci.